Bonsoir et bienvenue dans Radio Cinéma Club, votre émission 100% 7ème art. Retrouvez le collectif The Bloggers Cinéma Club tous les mercredis soirs de 19 à 21h sur ZKM Radio, bien entendu.
Chers auditeurs cinéphiles, un nouvel espoir. Tel sera le thème de ce 6ème épisode de nos aventures radiophoniques. En ces temps incertains, où les vents violents balayent le pays messin et ramènent à nos narines l'odeur âcre de la peur de ses habitants, il nous fallait bien un rayon de soleil. Alors que nos concitoyens préfèrent basculer du côté obscur, cédant au beau discours de l'impératrice bleue, il nous semblait indispensable de nous apporter un peu de réconfort. En effet, nous avons, au sein de notre collectif, voté pour Marine la semaine passée. Mais rassurez-vous, celle-ci est un vrai chevalier Jedi, qui, fraîchement élu au poste de vice-présidente de l'association, fera en sorte d'épauler Charlotte, à faire fructifier les nombreux projets artistiques qui seront organisés d'ici à un an. Deux femmes, à la tête d'un collectif fier d'avoir été contacté par de nouveaux partenaires culturels messins pour gérer l'organisation d'événements cinématographiques. De l'espoir, il va en falloir ce soir, en particulier pour Margot, qui, malgré son teint de morte vivante, a eu la gentillesse de nous accompagner pour la première partie, ou peut-être même l'intégralité de cette émission. Au pire, on lui fera boire un peu de potion magique pour tenir le coup pendant ses chroniques sur Astérix, le domaine des dieux et Dear White People. Son infirmier ambulatoire, Florian, aura besoin également d'un sérieux remontant pour tenir le 18 avril prochain, jour du Disquaire Day,
oh bordel,
dont il nous causera tout à l'heure, avant de rejoindre Jenny, dont nous avons l'espoir certain qu'elle participera à nouveau à une de nos émissions prochainement. L'espoir également de ne pas retrouver Thomas d'ici 3 mois avec une barbe digne de celle de Panoramix, celui-ci se lançant dans les 12 travaux de Valérie Damido, nous laissant après une participation intensive à l'émission. Mais avant de nous quitter, il reviendra sur 2 vieilles séries TV diffusées sur M6 au siècle dernier. De l'espoir aussi pour l'entourage de Valentin, forcé d'attendre plus de 7 mois avant la sortie du prochain James Bond. Le spectre de la folie va-t-il s'abattre sur le pilier de l'émission ?
Je pensais que t'allais faire une blague sur le permis de conduire.
Je pensais que t'allais faire ça aussi. Ah bah non, forcé à attendre 2 mois avant de récupérer son permis.
Bah oui, bah je le savais pas tout à l'heure. Enfin, l'espoir de revoir un jour Charlotte au micro de l'émission a enfin été exaucé. Toutes nos pensées étaient tournées vers elle, licorne du bon goût vestimentaire et cinéphilique, pour qu'elle revienne enfin. Elle est là ce soir.
Merci, voilà.
Enfin, de l'espoir pour moi. Ravi d'avoir pu, moins d'une heure avant l'émission, écrire ce court édito sur un superbe cahier conquérant de toute beauté.
Qui appartient à ta fille.
Exactement, armé de mon fidèle Bic tout mâchouillé. Et bien sûr, mon dernier paragraphe s'adresse à Étienne, technicien son de haute volée chez ZKM Radio, qui nous fait le plaisir de revenir aux manettes de l'émission et en qui nous plaçons tous nos espoirs pour lancer les jingles au bon moment, et notamment celui de X-Files, s'il est prêt, qui devrait nous rappeler quelques bons souvenirs. Apparemment, il n'est pas prêt.
He covers the cases others dare not touch.
A headless motorcycle rider swinging the sword.
I believe you.
And he will get his story at any cost.
Why should we always accentuate the gruesome?
Was Morton by any chance beheaded?
Yes, and you could use a good trim yourself.
He's not your average reporter.
Another vanishing corpse. I tell you, we're in luck.
And these are not your run-of-the-mill cases.
This is one story I may not get to file in person because it's after me.
He is the Night Stalker.
Bon, nos espoirs.
L'espoir a été vain.
L'espoir était à la hauteur de nos espérances, comme dirait Zéro Degré. C'est pas grave, on est un peu sur la même thématique, on reviendra à X-Files un petit peu plus tard. Mais on est là, le petit extrait qu'on a entendu, en fait, est la bande-annonce de Dossier Brûlant, qui s'appelle Kolchak, c'est ça, The Night Stalker en version originale, qui en fait est on va dire, le papa de X-Files. C'est vraiment la série qui a inspiré Chris Carter. Pour écrire la célèbre série. Donc voilà, et du coup, je passe la parole à Valentin qui voulait nous parler de la sortie en DVD du volume numéro 2. C'est
oui,
ça ?
Oui, je vous en parle maintenant parce que le volume 2 est sorti et du coup, la série intégrale est disponible en DVD pour la première fois en France. Elle est donc ça date de 60. Alors, c'est passé entre 74 et 75 sur CBS aux États-Unis. Et il a fallu attendre 1989 pour une diffusion française sur Canal+. Donc la série existe doublée en français, c'est disponible dans le DVD. D'ailleurs le doublage est très années 80 parce que Kolchak Donc le personnage principal est doublé par la voix de Eddie Valiant dans Roger Rabbit. Et l'un de ses collègues est doublé par la voix de Joe Pesci. C'est très... on reconnaîtra tout de suite les voix, c'est assez amusant. Donc le volume 2, il est sorti courant mars chez Elephant, qui est un éditeur que j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit de toute façon dans une précédente émission. Alors, Kolchak, donc, Dossier brûlant en tout cas en français, c'est une série qui fait suite à deux téléfilms qui sont sortis en respectivement 72 et 73, qui sont pas encore disponibles en DVD, qui sont jamais, qui ont jamais été diffusés en France non plus. Bon, peut-être qu'on aura l'espoir d'avoir l'intégrale de la série un jour. Mais voilà, c'est Chris Carter a souvent dit que c'était sa série culte, que c'était quand il était enfant sa série préférée. Et donc de toute façon, on voit clairement quand on regarde la série l'affiliation avec X-Files, puisque donc l'histoire, c'est Kolchak, qui est un journaliste un peu raté, un peu loser, quoi, qui bosse pour un petit journal, vraiment un tout petit journal où ils sont trois dans la rédaction, c'est un pauvre truc, quoi. Et lui, en fait, part toujours essayer de chercher l'info la plus sensationnelle. Et à chaque fois qu'en fait qu'il arrive donc sur les lieux du truc ou qu'il commence un peu à fouiller, il tombe toujours sur des histoires un peu surnaturelles. Et ça se solde toujours par l'arrivée d'un monstre. Et donc chaque épisode, en fait, donne un monstre différent.
D'accord. Le principe du loner dans les X-Files.
C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a un épisode vampire, un épisode zombie, un épisode sorcière, un épisode... On a tout, quoi. Tous les monstres du cinéma et en tout cas de l'imaginaire du fantastique sont dans la série. Il y a 20 épisodes de 50 minutes à peu près. Et ce qu'il faut noter, donc, c'est que, en tout cas, juste pour l'info, c'est que dans cette série, il y a des grands noms qui ont collaboré. Et c'est assez étonnant d'ailleurs quand on le découvre, parce qu'il y a Robert Zemeckis et Bob Gale, qui sont donc toujours fourrés ensemble, enfin qui étaient déjà fourrés ensemble 10 ans avant Retour à le futur, et tous les autres trucs qu'ils ont écrits d'ailleurs, qui ont donc écrit des épisodes.
D'accord.
Et il y a aussi David Chase, qui est le créateur des Sopranos.
Ok, ah oui.
Qui a fait ses premiers pas en fait à la télé sur cette série, okay. Donc en réécrivant des épisodes et en bossant sur quasiment l'intégralité de la série. Voilà. Après. Forcément, qui dit série américaine dit forcément guest star à chaque fois, hein, puisque c'est la série de CBS, quoi, toujours le truc un peu cheap, un peu facile, où on met des guest stars. On a Tom Skerritt, on a, je sais plus, Antonio Fargas, enfin, que des gars qui deviennent après connus dans d'autres séries. Et donc, oui, alors je suis désolé, je vais déjà devoir en parler maintenant, mais on a un acteur qui revient à 3 reprises, à chaque fois dans la peau d'un monstre différent, c'est Richard Kiel, qui jouait requin dans Moonraker et dans L'espion qui m'aimait. Voilà, je reparlerai de James Bond après. Hein.
Bah,
de toute façon, vous vous en doutez comme à chaque fois.
Sujet,
mais... Voilà, mais c'est une série que j'ai regardée avec beaucoup de plaisir. Alors, ce qui est dommage, c'est que on a aucun bonus dans les deux coffrets DVD. C'est un petit peu dommage, mais d'un autre côté, on se satisfait quand même de ce qu'on a. On a droit à la série en VO et en VF, et la VF est très très bien d'ailleurs. C'est assez rare pour le signaler. Mais c'est une série qui marche beaucoup. C'est une série qui marche très bien, en tout cas, grâce au fantastique, grâce à l'élément perturbateur en fait qui est à chaque fois amené de manière assez originale, quoi. Même si c'est vrai que le schéma d'un épisode, ça ressemble un peu à Columbo, quoi. C'est-à-dire on voit le meurtre au début et puis ensuite on est voilà. Mais c'est quand même bien amené, c'est quand même plutôt bien foutu, en tout cas pour l'époque, quoi. À l'époque où on n'avait pas de série fantastique, enfin, on avait la quatrième dimension qui passait 10 ans avant, mais depuis on n'avait rien, quoi. Et donc rien que pour ça, c'est vraiment pas mal. Et puis ce qui marche aussi, c'est l'acteur principal qui s'appelle Darren McGavin, qu'on a revu dans des seconds rôles, dans des films. Enfin, c'est beaucoup un acteur de télé, en fait, de téléfilms et de séries. On l'a quand même pas mal revu dans des films, dans des seconds rôles, voire vraiment des toutes petites apparitions. Vous verrez, sa tête vous dira forcément quelque chose. Et il joue excellemment bien le personnage principal, donc Kolchak, qui a toujours un côté un peu désabusé, en même temps très ironique, toujours en train de faire des blagues, mais jamais à prendre au premier degré. Enfin, c'est super intéressant. Donc c'est sorti dans le courant du mois de mars, le 11 mars donc.
11 mars, ouais.
Et enfin, en tout cas, le second coffret est sorti le 11 mars, et donc le premier était sorti il y a, je sais plus, 3 ou 4 mois, un truc comme ça. Et donc voilà, toute la série est disponible maintenant, les 20 épisodes, et c'est à voir, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ouais.
D'accord. Autour de la table, il y a quelqu'un qui a déjà vu cette série ou pas ?
Jamais.
J'en ai entendu parler, non, mais j'ai jamais vu.
D'accord, bah, du coup, ça sera l'occasion.
Ça à découvrir, voilà. On peut vous passer le DVD s'il faut.
Du coup, Étienne, est-ce qu'on peut balancer X-Files ou pas ?
Ouais.
Donc voilà, ça c'était juste pour signaler l'actu qui est enfin tombée, donc la confirmation du retour de The X-Files à la télé très prochainement. On en avait parlé à la toute première émission, il me semble. Ouais. C'était encore juste.
C'était pas encore sûr. Ouais.
C'était pas encore sûr, c'était vraiment une rumeur, mais bon voilà, donc ça a été confirmé. Ils reviennent pour 6 épisodes qui seront normalement réalisés tous par Chris Carter, si j'ai bien suivi.
Avec ce qui n'est pas forcément un bon truc, puisque Chris Carter a réalisé les deux films.
Ouais, il n'a pas réalisé
le premier était moyen et le deuxième était très très nul. Ouais,
c'est sûr qu'il n'a pas réalisé les meilleurs épisodes non plus. Quoi. Moi j'étais oui, plus fan de l'époque de Glenn Morgan ou de ces mecs-là qui mettaient la barre un peu plus haut, David Nutter aussi. Ouais. Donc voilà, en tout cas, on est quand même forcément très très impatients de revoir ça. Ils ont dit qu'ils avaient adapté le format à l'époque actuelle. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et il y a eu confirmation aussi que le Smoking Man revenait. Voilà qu'il aurait encore un rôle. Apparemment, Eloy est toujours pas mort du cancer. Donc voilà cette petite aparté. Sans transition aucune, on va passer à Thomas qui voulait nous parler de documentaires. Donc déjà, j'apprécie la chose parce que c'est vrai qu'on parle assez rarement de documentaires. On y vient un petit peu de temps en temps sur le blog, mais de façon assez discrète, et ça reste quand même un genre intéressant. Donc voilà, moi, je suis assez content que tu veuilles parler de Errol Morris.
C'est ça, donc je vais tout d'abord parler donc, d'un coffret qui sort chez Criterion, ben, qui est sorti chez Criterion le 24 mars, donc chez nos amis américains. Donc The Gates of Heaven et Vernon, Florida. Donc tout d'abord un petit mot sur Errol Morris, parce que j'imagine que peu de gens le connaissent, c'est un documentariste. Il a principalement œuvré dans ce genre-là, il a fait je crois un seul film de fiction. Il a entre autres travaillé sur Stephen Hawking ou Robert McManara ou le scandale de Guantanamo. Bon, tout ce que j'ai vu de lui, c'était vraiment très 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 bien. Je vous conseille de vous plonger dans sa filmo, notamment donc Une brève histoire du temps, donc sur Stephen Hawking, qui a été grand prix du documentaire Ascendance à l'époque, en 92 je crois. Mr. Death, sur une espèce d'ingénieur négationniste qui réparait des chaises électriques ou des machines d'injection létale. Ouais, il a toujours des sujets très particuliers. The Fog of War, donc sur McManara, qui était un secrétaire d'État à la Défense sous Kennedy, qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire. Bon, c'est pas le sujet, mais vraiment, vous pouvez aller vers sa filmographie, c'est super intéressant. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc Gates of Heaven, c'est un reportage de 78, ça traite du business des cimetières pour animaux aux États-Unis. Donc on suit d'abord un gars qui a monté son affaire au bord d'une autoroute parce qu'il a trouvé un bon terrain, ainsi que quelques maîtres qui lui font confiance pour embaumer et enterrer dignement leur super bébête. Mais tout y passe, hein, des chiens, des chats, des poules, des rats. Et le tout mis en parallèle avec le patron de l'usine de recyclage de cadavres animaux du coin, qui lui est un véritable pourri. Le gérant du cimetière est plutôt touchant. Il fait ça vraiment parce que dans le coin où il habitait, on ne pouvait pas décemment enterrer des animaux. C'est vraiment sympa de les suivre, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Comme dit, les propriétaires, c'est tous des caricatures. Ils sont super drôles, ils font parler leurs chiens, ils nous parlent de leurs bestioles mortes comme personne. Ils sont plutôt touchants. Mais le gros souci, c'est que ce gars-là n'a pas du tout le sens des affaires. Et à un moment, le terrain, donc comme dit, pour lequel il n'était pas propriétaire, se fait revendre pour construire des restaurants ou un complexe immobilier, je ne sais plus très bien. Et du coup, ils sont obligés d'exhumer ces 400 bestioles dans un autre cimetière qui, lui, est beaucoup mieux gérée à l'américaine. Donc du coup, on se retrouve à suivre les patrons de ce nouveau cimetière. Donc un père et deux fils. Donc le père est plutôt quelconque, mais les deux fils sont des personnages plutôt rigolos. Le plus vieux, c'est un ancien assureur, un gars qui faisait des conférences sur la motivation, comme ça se fait assez souvent aux États-Unis. Donc en l'entendant parler, c'est très très drôle parce qu'il est très très imbu de lui-même. Mais s'il travaille dans le cimetière pour animaux, c'est parce qu'il a fait un burn-out et qu'il est retourné chez papa-maman.
D'accord.
Et qu'il a énormément de mal à se plier aux lois du... Bah, aux lois. À la façon de travailler, il a du mal à être obligé d'obéir à son plus jeune frère, car il est plus jeune, qui lui est un personnage plutôt lunaire. Son gros trip, c'est quand le cimetière est fermé, c'est de sortir son ampli de guitare sur sa... Il est en haut, il a une maison qui surplombe tout le cimetière et toute la vallée, toute la Napa Valley en Californie. Il sort son ampli dehors et il joue pour que toute la vallée l'entende.
D'accord, ouais, j'ai vu cet extrait effectivement quoi. Et du coup là, la façon dont tu parles, on a presque l'impression d'y voir un film. Est-ce que du coup son approche documentaire, est-ce qu'elle lorgne un peu du côté de la fiction ou pas ?
Non. Non, pas pour ces documents, pas pour celui-là en tout cas.
D'accord. En tout cas pour celui dont tu parles après là, dont tu vas parler plus tard, The Thin Blue Line, j'ai l'impression par contre qu'il a inclus des éléments de fiction, c'est bien ça.
C'est ça.
Je me demandais juste s'il avait fait ça aussi pour ces deux films.
Non. Bah pas pour tous en tout cas. Pour ça, c'est comme dit, c'est ses premiers documentaires. Il a une manière de se... En fait, on ne l'entend jamais, c'est toujours à la manière d'un striptease. On ne le voit pas, on ne l'entend pas et on voit juste les gens qui parlent.
D'accord.
C'est plutôt intéressant. Et comme dit, c'est un reportage, c'est un sujet que bon, je ne pense pas qu'il ait été traité ailleurs. Et en plus, le fait que ça soit 78, ça donne une patine de voir un peu une époque, surtout là-bas, où les gens sont plutôt originaux, on va dire. Enfin, c'est des gens comme on n'a pas chez nous.
Okay.
Pour la plupart. Et donc, dans ce coffret-là, c'est un coffret, comme dit, où il y a tous ces deux premiers documentaires. On a aussi Vernon, Florida, qui est une véritable pépite. Donc, Vernon, Florida, donc à la base, c'était un documentaire qui devait traiter d'une arnaque à l'assurance où plusieurs personnes de Vernon, donc c'est une petite bourgade de 700 âmes en plein bayou, s'amputaient eux-mêmes pour toucher des assurances. Donc, Errol Morris, ayant reçu des menaces de mort, il se ravise et nous pond vraiment une vraie pépite de 55 minutes qui se contente de laisser causer les gens de Vernon, à la manière d'un striptease. Il les laisse parler de leur passion, de leur vie, et quasiment pour chaque intervenant revient la nature, la religion et les armes à feu.
D'accord.
Donc toute la galerie de personnages est vraiment à voir. C'est des caricatures entre le chasseur de dindons sauvages qui montre ses trophées de chasse, qui explique de manière très très détaillée comment il a tué ses plus belles bêtes avec les bruits et tout. Le pasteur ou l'éleveur de lombrics. Tout le monde est irréel. On les mettrait dans des films, on n'y croirait absolument pas. D'ailleurs, dans ce reportage, j'ai appris qu'un opossum vivant valait 1200 euros en 81. C'est quand même une sacrée belle somme. Je ne pensais pas que c'était si dur à attraper. Donc, encore une fois, la patine du temps a très, très bien marché. C'est à voir. Ces deux documentaires-là sont vraiment, vraiment à voir. Donc, ça sort, comme vous me dites, chez nos amis américains uniquement. Ça doit être inédit chez nous. Donc, si vous avez un oncle américain, demandez-lui de vous envoyez le Blu-ray.
Sinon, vous pouvez aussi demander à Thomas d'aller faire les courses aux États-Unis pour vous. Il a l'habitude.
Mais attention, c'est en zone 1.
C'est en zone 1, il n'y a pas de sous-titres. Bah, que des sous-titres
tant
anglais.
Tant qu'à acheter le DVD aux États-Unis, autant acheter un lecteur aussi.
Ça marche. Alors, avant de faire
dézoner les lecteurs, non ?
Ah oui, Zara, tu peux dézoner les lecteurs. Ouais.
Pardon.
Alors, avant de passer au prochain documentaire de Harold Morris, qui s'appelle The Thin Blue Line, tu as choisi une petite intermède musicale d'un artiste que je ne connais pas, Nick Cave. Vous connaissez ? Vous avez entendu parler ou...
Non. Il doit non. Moi, je connais quelqu'un qui ne le connaît pas, mais c'est vrai. C'est...
Non, je ne sais pas. Bon, voilà. J'imagine qu'il est un petit genou. Donc voilà, il a un groupe qui s'appelle Les Mauvaises Graines et qui interprète God's Hotel. Everybody's got a room. Everybody's got a room. Got a room. You'll never see a sign hanging on the door saying there ain't no rooms available there anymore.
Eh bien,
je connais. Ah, pardon. Oui,
vas-y.
Non.
Bah, si,
je voulais faire une bonne vanne.
Mais vas-y, raconte la vanne, pardon.
Je ne le connaissais ni Kev ni d'Adam.
Chapeau.
Buzzer.
Non, pour moi, ça ne mérite pas un buzzer.
Faut que je me chauffe, là.
Franchement, elle était bien. Moi, j'ai beaucoup.
Ça fait du coup que je te coupe. Hein.
Ah non, mais j'ai vraiment apprécié cette vanne.
Merci.
Du grand bon 17 ans.
Trop bon.
Du coup, on continue toujours avec Errol Morris sur un autre documentaire, The Thin Blue Line. Et là, par contre, on a la bande-annonce en VO. Alors, Étienne, si tu veux balancer pour mettre un peu dans l'ambiance. We'd never really gone that long in Dallas without clearing the murder of a police officer. We'd had several kills, but we'd always cleared them pretty quick. However, we finally got the break that cleared it. The day they picked me up, they took me upstairs, but they put me in a little room. He had a confession there he wanted me to sign. Said that I would sign it. He didn't give a damn what I said. I would sign this piece of paper he's got. I told him I couldn't.
Donc, The Thin Blue Line du même Errol Morris, c'est son troisième documentaire qui est sorti en 88. Donc, c'est le film qu'il a réellement lancé car l'affaire qu'il traite a fait vraiment grand bruit à l'époque aux USA. Donc, pour pitcher vite fait, en 76 à Dallas, Randall Dale Adams, la trentaine, est pris en stop par David Harris, un jeune de 16 ans, après que sa voiture soit tombée en panne. Le même jour, un policier est tué après un contrôle routier. Donc l'adolescent, après s'être vanté d'être l'assassin autour de tous ses potes, s'est fait arrêter. Et, il déclare à la police que l'assassin, c'est Randall Adams. Donc ce dernier, bien que clamant son innocence et que le dossier renferme plus de preuves envers l'ado qu'envers lui, il est condamné à mort. Et c'est plutôt ballot. Donc...
Ça mérite ouais. Presque un buzzer.
Ça moi, je suis bien content de pouvoir avoir le permis.
Ça va être le running gag.
Donc, Maurice, à la base, le sujet de son documentaire, c'était pas ça. Il devait suivre un docteur, un gars qu'on appelle un docteur, le docteur Death. D'accord. Car faut savoir que au Texas, pour pouvoir condamner quelqu'un à mort, il faut qu'il y ait un psychiatre qui passe voir le condamné et qui estime qu'il peut recommencer.
D'accord.
Sinon, il n'y a pas de condamnation à mort. Donc, à la base, il suivait ce gars-là.
Okay.
Il s'est retrouvé donc en face de ce fameux condamné, de Randall Adams, et il s'est dit non mais ce mec il est pas coupable, j'ai un truc à faire. Donc il refait toute l'enquête, il va interroger la plupart des personnes qui ont participé au projet, du juge au policier, aux témoins à charge, et il l'entrecoupe d'images de reconstitution comme dans les émissions policières d'aujourd'hui. Et apparemment, c'est le premier qui a utilisé cette technique de mise en scène pour le documentaire, avec une musique omniprésente. Ça fait très thriller. C'est très, très bien foutu. Donc, comme dans tous ses documentaires, il se met vraiment à l'écart de ses protagonistes, et c'est encore plus important dans celui-là, car si ça le rend vraiment neutre face à son sujet. Donc, petit à petit, au fil que le documentaire passe, entre les témoins qui se parjurent, les preuves évidentes, on se doute bien qu'il y a un truc, qu'il y a anguille sous roche. Surtout lorsqu'on apprend que le procureur, un certain Mulder, pour faire écho à X-Files, dit Mad Dog Mulder ne voulait pas accuser David Harris, donc le jeune, car n'ayant que 16 ans, il n'aurait pu le condamner à mort et voulait faire un exemple. Donc il lui fallait un coupable qu'on puisse tuer. Vive le Texas. D'ailleurs, il y a une citation dans le film que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est très, très facile. Ben, n'importe quel mauvais procureur peut faire condamner un coupable. Par contre, il y a que les bons procureurs qui peuvent faire condamner les innocents. Ça donne bien une idée de la justice au Texas.
Ça me rassure pas du tout, ça. Hein.
Donc, le procureur en question, le fameux Mulder, était un des meilleurs des États-Unis et n'a jamais perdu un procès. Donc bon, je sais pas si faut voir quelque chose, mais il y a certainement eu beaucoup de
trois
morts pour
points.
Rien. Donc là où Maurice est très fort, c'est que en plus de nous prouver qu'Adam est innocent, on peut encore avoir un éventuel doute jusqu'à ce qu'il arrive à avoir les confessions du véritable tueur. C'est ça qui a fait un énorme bruit, parce que une fois le documentaire diffusé, Adams a pu sortir de prison libre en 89. Ça, c'est pas dit dans le documentaire. Hein, je me suis renseigné après. Et pour la petite anecdote, Adams aura porté plainte contre Errol Morris pour s'être enrichi sur son nom suite au documentaire. Donc voilà, c'est une véritable pépite. C'est vraiment, vraiment génial. Ça, c'est à voir absolument.
D'accord. En tout cas, moi, tu m'as convaincu. Moi, des trois documentaires, c'est celui vers lequel je me serais tourné en premier, effectivement, voilà, parce que c'est des sujets
et puis ça
forcément qui me touchaient un peu.
Aux États-Unis, le gros impact qu'ont les documentaires, en fait, sur l'opinion publique, sur la façon dont ça peut faire avancer les.
Ça m'a fait penser à l'histoire des trois de Memphis. Je sais pas. C'est une.
West of Memphis. Il y a eu un documentaire.
Il y a eu plusieurs documentaires. Ce qui les a sauvés. Moins que celui-là, mais en tout cas, ce qui a pu faire avancer la justice, c'est trois documentaires réalisés sur HBO, où ils prouvaient vraiment par A plus B que ces jeunes n'avaient rien à voir. Et d'ailleurs, on en a entendu parler parce que je crois que le gars qui était condamné à mort dans cette affaire-là est sorti de prison l'année dernière, il me semble.
D'accord. Et d'ailleurs, ça marche aussi dans le sens inverse, parce que HBO vient de faire un documentaire il n'y a pas longtemps sur un mec accusé de meurtre. Un milliardaire soupçonné d'avoir tué sa femme et plein d'autres gars qui lui couraient un peu dans les pattes. Et en fait, l'histoire, je sais pas si vous avez vu ça dans la presse, c'est sorti la semaine dernière. Et le mec était en plein procès, donc il avait le micro d'HBO sur lui. Évidemment, il niait les faits. Il est allé pisser aux toilettes et en fait, il s'est parlé à lui-même en disant putain, ouais, effectivement, je les ai tous tués. Et du coup, le mec a été condamné sur un aveu non voulu. Au micro des documentaristes.
Alors qu'il parlait tout simplement à son sexe.
Exactement.
Tu te rends compte, Vernon.
Tout ce qu'on fait, voilà.
Donc voilà, c'est pour. Voilà, je vois David qui me dit d'enchaîner. On va rester dans la thématique des États-Unis et ses sombres fantômes. Alors, outre la peine de mort, nous avons aussi le racisme. Un vieux débat chez les Américains, avec tout de suite un petit extrait de la bande-annonce. de Dear White People.
You're listening to Winchester University's only college radio station.
Dear White People. A minimum requirement of black friends needed to not seem racist has just been raised to 2. Sorry, but your weed man, Tyrone, does not count.
Dear white people, please stop touching my hair. Does this look like a petting zoo to you? Dating a black person to piss off your parents is a form of racism.
Désolé d'interrompre cette voix sexy de présentatrice radio, mais Margot, je te cède la place.
Enchaîne. Merci. Là-dessus. Alors je tiens juste à vous prévenir que, compte tenu de l'émission de la semaine dernière, j'ai décidé de prononcer tous les noms à la française. Maintenant, pour éviter...
Pourquoi il y a Roth dedans ?
Voilà, c'est ça. Donc, je vais vous présenter Dirwit Peuple, de Justin Simien, avec Tyler James Williams, Tessa Thompson et Brittany Curran. Bon, plus sérieusement, donc le film est en fait une satire absolument salvatrice sur le racisme aux États-Unis et plus largement en Occident. Il met en scène une prestigieuse université dans laquelle une des résidences d'étudiants est historiquement occupée par les étudiants noirs du campus. Et en fait, le film tourne essentiellement autour du personnage de Sam White, qui est une étudiante noire. qui se retrouve un peu par un concours de circonstances à la tête de cette fameuse résidence. Et c'est un personnage absolument délicieux qui anime une émission de radio, d'ailleurs, qui s'appelle Dear White People, où elle explique avec verve que, par exemple, choisir inconsciemment un partenaire racisé pour déplaire à ses parents est une forme de racisme. Donc, en fait, ce personnage-là, elle finit... aussi par un concours de circonstances, a mené une révolte un peu globale contre le racisme à l'université. Et le film est extrêmement grinçant. Il décortique le racisme ordinaire et tout en ayant en même temps le bon goût d'aborder des thématiques un peu transversales avec beaucoup d'intelligence, comme le sexisme et l'homophobie, par exemple. Et pardon. Dans cette optique, il y a le personnage de Lionel, par exemple, qui est un des personnages centraux du film, qui est gay et noir. Et donc, il est constamment un peu pris entre ces deux identités victimes d'oppression, mais qui quelque part, lui veut juste vivre sa vie sans forme de militantisme et n'y a pas forcément le droit, en fait. Donc, le film, plus globalement, traite des systèmes de domination un peu insidieux et qui, et pour moi, il s'adresse avant tout aux privilégiés, aux blancs, en fait, parce que il déconstruit les choses. C'est un manifeste qui est assez violent, mais qui est presque pédagogique, en fait. Il aborde par exemple le thème de la non-mixité, puisque l'enjeu du film, c'est le désir des étudiants noirs de faire une soirée exclusivement réservée aux étudiants afro-américains. Et donc ça montre la facilité avec laquelle les gens se sentent dépossédés dès qu'on les exclut, alors que les espaces non-mixtes sont parfois nécessaires pour permettre aux gens qui sont exclus de la plupart des espaces de dialogue de s'exprimer. Donc le film montre que non, le racisme anti-blanc n'existe pas, en tout cas pas en Occident, et que interdire l'accès aux blancs à un minuscule espace n'est pas comparable avec l'immense exclusion dont souffrent encore les noirs aujourd'hui. Donc voilà, le film traite de thèmes vraiment complexes, tout en restant toutefois extrêmement drôle. Et il y a notamment une scène dans un cours de cinéma où un élève blanc présente son court-métrage « Renaissance d'une nation ». Et donc, il montre bien la façon dont les dominants, en fait, s'approprient une cause de manière complètement risible et sans laisser la parole sans que ça leur traverse l'esprit une seule seconde de laisser la parole aux concernés. Et en plus, ce passage-là est immédiatement suivi d'un dialogue que j'ai vraiment adoré entre donc le personnage de Sam White et son prof, où elle lui dit que avant de dire quoi que ce soit, il doit savoir qu'elle est restée assise sans protester devant Autant n'emporte le vent et une rétrospective Tarantino. Et lui lui répond qu'il a bien lu ses 15 pages sur pourquoi le film Gremlins parle de la peur des blancs dans la culture banlieusarde noire. Et là, elle a quand même une réplique assez énorme où elle explique que les Gremlins se sont bruyants, parlent en argot, raffolent de poulet fruits et pètent un plomb quand on mouille leurs cheveux. Donc le film est vraiment plein de second degré qui en même temps fait un peu douter et réfléchit de manière vraiment très intelligente sur la pop culture. Et en plus de ça, la mise en scène est vraiment léchée, très très belle. On se croirait dans un film historique avec une bande originale qui mêle de la musique classique et des grands artistes noirs d'hier et d'aujourd'hui, dont on va entendre un extrait. Mais voilà, juste, je recommande très très vivement et c'est salvateur.
Carrément. En tout cas, moi, j'étais déjà convaincu à la vue de la bande-annonce. Hein, c'est vraiment le film que j'aurais aimé voir. Je sais pas d'ailleurs, Valentin, il est sorti ou pas T'en sais un peu plus ou pas
Non, mais il sort.
En tout cas, est-ce qu'il est sorti à Metz
Il n'a pas été programmé.
Il n'est pas encore sorti
à Metz. Parce que il est déjà sorti en France, mais pas à Metz, je crois.
Mais ça craint.
Il était projeté.
On est un peu en Allemagne, il faut dire.
Je crois. Ça faisait
partie de la
sélection.
Il sort pas la semaine prochaine ou dans deux semaines.
Je sais pas. En tout cas,
ça arrive que la sortie soit.
Oui, elle est peut-être décalée. Peut-être que tu sais le caméo.
Mais alors, Margot, tu l'as peut-être dit, mais ça se situe dans les années 60, c'est ça, ou c'est contemporain?
Non, c'est contemporain.
Et le réalisateur, il a fait d'autres choses avant
Pas du tout à ma connaissance, non.
C'est quelqu'un d'assez jeune ou...
Je pense, ouais. Bah, en tout cas, c'est un noir aussi qui a réalisé le film.
C'est un black, ouais.
Forcément. Et non, franchement, j'en sais pas du tout plus que ça sur lui. Mais même le casting principal, enfin les étudiants, c'est que des jeunes plus ou moins inconnus qui ont un peu fait des séries télé, qui ont un peu eu des rôles dans Grey's Anatomy ou ce genre de trucs, mais qui sont pas très connus. Et notamment l'actrice qui porte un peu le film, qui joue Samantha White, elle est exceptionnelle, quoi. Elle est vraiment.
Ouais, je pense que c'est un film qui a bien tourné dans les circuits festivals, quoi.
Oui, ça.
Il a eu un prix à Sundance aussi.
Voilà. Ouais.
En général, c'est plutôt gage
de... Voilà, ça a l'air de rentrer sur ce type de profil, quoi. C'est clair.
D'accord.
Donc, ouais, très très bien en tout cas.
Donc, comme tu nous l'annonçais, tu as un extrait de la BO, c'est ça?
Ouais. Alors Kilo Kish. C'est Goldmine de Kilo Kish. On va dire ça comme ça.
Ouais, je pense que ça se prononce comme ça. Apparemment, ça a été ça doit être signé par Kitsune, parce qu'ils étaient sur la compilation 15 de Kitsune.
Oui, tout à fait, ouais.
Donc voilà, donc ça augure du bon.
Et c'est très bien ce qu'elle fait par ailleurs aussi. Allez écouter.
Exact. Vas-y, Étienne.
Isn't the greatest love for writing songs, but a vessel nonetheless for fantasies and shrouded thoughts. And as the light comes in and lays in wait across my wall, I gather all I've got and toss the veil once and for all. I'd like to say that it's just fine, can never be a wasted night. 5 a.m. before the light, and if you wake up feeling right, just give me a call, it won't be awful. I lose sleep to think of you, I find it awesome. Pretty hard, but I come back empty. I've been thinking that the only one for you is me. I've been looking pretty hard, but I come back empty. I've been thinking that the only one for you is me. Embrace the laughs and all the good fun that we've had. I wanna tell you stupid, I don't think you'd understand. You sure have a funny way of playing with emotions, mixing up a strange little potion etched in red and number 9. 10, 11, and 7 minutes in heaven. Think I'd kill to spin the bottle with you on the other side. Or even be at a party you when you didn't try to hit on one of my friends, only then to pass me by. Give me a call, it won't be awful. I lose sleep to think of you, I find it awesome. I've been looking pretty hard, but I come back empty. I've been thinking that the only one for you is me. I've been looking pretty hard. Thank you.
Et voilà, nous voilà repartis. Allez, un petit coup de vin blanc et c'est reparti.
C'est vachement bien, Kino Kish.
Carrément.
Ah bah oui, c'est très très cool.
Je vous trouve très calme ce soir.
Comparé à... Moi, j'ai pas aimé la musique.
Oui, bon, bref. Donc voilà, je suis quand même assez... Je suis quand même assez surpris du manque de réactivité et de mauvaises blagues.
Oh, j'ai fait deux vannes déjà.
Ah ouais. Ouais. Ouais, mais aussi, j'aurais préféré fumer un kilo de cush.
Oh, il l'a préparé depuis deux minutes,
si
celle-là.
Non, mais bon.
Bon, en tout cas, on reste dans le thème du pas drôle avec Astérix, le domaine des dieux. C'est ça, hein?
On reste dans le pas drôle avec Margot.
Oh. Non mais là, qu'est-ce qu'il y a?
Étienne, buzzer.
Ça va se régler derrière le garage.
Dans un ring.
Qu'est-ce que vous réglez derrière les garages?
Non, Margot est beaucoup plus drôle qu'Alexandre Astier dans ce film. Alors vas-y.
En même temps, c'est pas tellement difficile.
Mais à part, je te coupe juste avant. On a comme un extrait de la bande-annonce. Je sais pas s'il est drôle. Vas-y. Bah si, si.
L'invincible puissance de Rome, comme les serres du faucon, elle s'est refermée sur tous les continents. Sauf ici, en Armorique, où une poignée d'irréductibles Gaulois continuent de rire au bec de l'aigle impérial. Leur chère forêt laissera la place à de glorieux immeubles. Encerclés par la civilisation romaine, ils seront condamnés à s'adapter ou à disparaître.
Comment vas-tu appeler ta glorieuse cité ?
Le domaine des dieux.
C'était pas drôle.
Non, c'était pas drôle. Alors Margot, vas-y, dis-nous tout.
Bon. Clash, clash.
Alors, Astier, de l'art de vouloir désespérément être un réalisateur.
Voilà.
Est-ce qu'Alexandre Astier peut prendre des risques?
Ma chronique est finie.
Est-ce qu'Astier risque?
Oh!
C'est plus drôle que le film en entier.
On a bien fait de l'inviter.
Bon. Merci Florian.
Mais je vous en prie.
Et c'est reparti.
Alors, ça sort en... Pourquoi c'est toujours au moment où moi, je dois parler qui sort ça? C'est pas possible. Alors...
Reprends le contrôle, vas-y.
Reprends le contrôle. Il n'y a pas un extrait à balancer, là, en midi.
Tu peux le repasser, peut-être qu'on trouvera plus drôle.
Bon, c'est parti. Ça sort en DVD le 31 mars et je ne vais pas mâcher mes mots. C'est pour moi une bouse infâme. Alexandre Astier, dont j'aime beaucoup le travail par ailleurs, signe une adaptation en dessin animé d'un des meilleurs albums d'Astérix, moi je trouve, co-réalisé avec Louis Clichy. Et ils se sont tous les deux gargarisés d'avoir effectué l'enregistrement des dialogues avant d'animer, ce qui pourrait être bien parce que c'est souvent, c'est souvent ce qu'on reproche au cinéma d'animation, mais c'était sans compter leur mépris total du genre. Calmez-vous. On a donc un casting plus ou moins 4 étoiles avec toute la clique de Kaamelott, donc Lionel Astier, Guillaume Bria, Joël Sevilla, mais aussi Alain Chabat. Et la légendaire voix d'Astérix Roger Carrel qui a été gardée. Et puis il y a aussi des choix un petit peu plus bizarres comme Florence Foresti qui fait bonne mine. Ok. Enfin bref, tous ces gens-là prêtent leur voix à des personnages hideux, absolument pas texturés, dans la veine des dessins animés low cost qu'on peut voir en ce moment à la télévision et qui reprennent les précieuses licences de notre enfance. Et big up Thomas, les Tortues Ninja par exemple.
N'est-ce pas?
Mais dans des esthétiques dont l'intérêt et la beauté correspondent sûrement au degré zéro de l'animation. Donc le film, c'est ça. Il est immondément moche, mais pas seulement, parce qu'il souffre aussi d'une mise en scène calamiteuse avec un montage maladroit et truffé d'incohérences, le tout avec une absence totale d'habillage sonore. Astier a plus ou moins essayé de faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire réunir des acteurs cultes ou attachants et leur donner des dialogues cabotins et plus ou moins bien écrits. Le problème, c'est que même là-dessus, pour moi en tout cas, il a échoué parce que l'argot aristocratique de Kaamelott ne trouve aucune accointance avec l'univers franchouillard et très marqué d'Astérix, qu'il a pourtant voulu respecter quand même coûte que coûte. Donc c'était un challenge impossible, peut-être, mais c'est un échec gênant dans tous les cas. Si je peux faire passer un message personnel à quelqu'un qui l'entendra sûrement pas, j'ai bien envie de dire à Monsieur Astier d'arrêter de vouloir s'octroyer des talents qu'il n'a pas. Musicien exceptionnel, grand dialoguiste et homme de théâtre, c'est déjà pas mal et il vaudrait mieux s'en tenir à ça plutôt que d'infliger à ses fans des échecs pareils, voire de véritables étrons comme l'étaient David et Madame Henson. Sa risible tentative de thriller psychologique made in France avec Isabelle Adjani et des Lamborghini. Donc Que ma joie demeure, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était
non.
du théâtre.
Non.
C'était très bien. Une pièce de théâtre pour acteur seul qu'il a fait autour de Jean-Sébastien Bach. C'était vraiment très bien. Son dernier, l'exoconférence, pareil. Kaamelott, ne vous en déplaise, c'était du théâtre. Du moins, on n'aurait pas dû essayer d'en faire autre chose et c'était bien. Maintenant, ce serait pas mal d'arrêter les frais tant que son aura d'intellectuel de gauche n'a pas été encore enterré sous une montagne de films ratés et sans âme. Si proche de la médiocrité télévisuelle qu'il combat pourtant avec une verve admirable. Merci, bisous.
Et tu n'as pas parlé de la pire voix qui est Elie Semoun, je pense.
Ah ouais, c'est vrai. Bof. Oh non, franchement, je trouve qu'il y a pire. Je trouve que la voix d'Alain Chabat rend tellement mal,
Alain
en fait.
Est-ce qu'Alain Chabat joue César ?
Non, pas du tout, non.
Ah merde.
Il joue un sénateur.
Pour tout avouer, j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait Alain Chabat.
C'est vrai ?
Non.
Bah, je trouve que du coup, on a l'impression qu'il y a Shrek dans le film, quoi. Non, mais c'est vrai. Ouais, enfin voilà, gros ratage pour moi. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont vu.
Si, moi je l'ai vu, donc ouais, il n'y a pas débat aussi. Ouais, c'est le film qui m'est passé vraiment au-dessus de la tête.
Un peu, c'est sans
un peu déçu d'avoir emmené ma gamine voir ça, voilà, pour lui faire découvrir un peu Astérix. Donc voilà. Mais bon, elle a toujours les albums dans sa bibliothèque, donc la chose devrait être rattrapée, quoi.
Bah, puis c'est mal adapté.
Concrètement, c'est un vrai ratage, quoi.
Il a rajouté des intrigues parallèles toutes nulles avec le gamin, là.
Oui, exact. Enfin, avec son petit bateau.
Ouais, c'était mon coup de gueule parce que moi, on va enchaîner, ouais, pardon.
Mais voilà. Ouais. Bon, bref. Les autres, non, vous l'avez
pas vu.
J'étais pas autant déçu que vous. J'étais super mitigé. J'ai pas trouvé ça super drôle, mais je serais pas si dur.
Ouais. Moi, c'est sans doute aussi parce que j'adore d'autres trucs qu'il a fait.
Soyons clairs, je le reverrai jamais. Une fois, ça va, mais bon.
Deux fois.
Non.
Ah putain, pourquoi je l'ai fait ?
Oh là là. Bah, j'oublie que je suis avec des vieux aussi, c'est pour ça.
Oh, l'une tortelle.
Bon, bah apparemment tout le monde est plutôt d'accord là-dessus. Par contre, on va quand même lancer le débat. Là, je sais qu'il y a des avis contraires et divergents sur
quel bon film.
Divergent.
C'est pas divergent.
Non, c'est pas divergent, mais on est dans la même thématique de science-fiction avec.
Ah parce que on sait que tu l'aimes.
Mais j'adore. Mais non, mais je tu peux me blâmer. Tu peux me.
Je sais pas, je les ai pas encore vus.
Non, franchement.
En tout cas, c'est pas là-dessus que doit porter le débat, je crois.
Non, le débat sera pas là-dessus. Et moi, je
peux faire un débat sur Divergent.
Donc voilà. Donc nous allons nous diriger du côté de l'espace avec.
Pas ta phrase.
Lui non plus, il sait même pas où il va, il commence.
Pardon.
Et couplet, tiens. Couplet.
Je pense à ma famille et à des millions d'autres.
Peut-être qu'on a passé trop de temps à essayer de régler tout ça au moyen de théories. Seul l'amour transcende le temps et l'espace.
N'entre pas docilement dans cette douce nuit. Le vieillage doit gronder, tempêter au déclin du jour. Hurler contre la mort de la lumière.
Je vais pas m'en sortir.
Si, tu verras.
Paf. Donc voilà, c'est la séquence débat. Au départ, cette petite intermède interstellar devait être animée par Margot, mais du coup, on va simplement lancer le débat. Parce que c'est vraiment un film qui divise les spectateurs. Certains crient au génie, d'autres crient à l'arnaque totale. Donc je sais pas. Donc le premier qui a la parole, c'est parti.
Est-ce que tout le monde l'a vu ?
Ouais. Oui. 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 Ben voilà.
On va pas pouvoir spoiler.
David ?
Non, tu l'as vu ?
Étienne ?
Non.
Ah bon, Étienne est hors compète. Alors, qui ?
Moi, je peux expliquer pourquoi je l'ai pas vu. Christopher Nolan, c'est la saga des Batman aussi, et je sais qu'elle est globalement très appréciée. Je sais pas si autour de la table c'est le cas.
Non.
Peut-être Begins.
Pas parmi nous.
Absolument pas.
Oui. Mais pas les autres.
Parce qu'il y a Kylian.
J'essaie de.
Non. Parce que les autres sont vraiment vraiment.
Kylian.
De mettre le doigt sur la raison pour laquelle ça me plaît pas, et je sais pas. Je trouve qu'il y a une espèce de sophistication. Consciente de soi-même, qui m'insupporte un petit peu. Ouais, qui m'insupporte un petit peu. Je sais pas si justement tu veux rebondir, Margot, si tu trouves que c'est un peu le cas.
Ouais, si, bah moi je trouvais clairement que c'était le cas pour ce film précédent en tout cas, mais moi j'ai vraiment adoré Interstellar, vraiment. C'est pour moi un super film de SF. très bien joué, très bien filmé, plutôt bien écrit, ce qui est rare chez Nolan à mon goût en tout cas.
Bien écrit.
Ah ouais, moi j'ai trouvé ça bien écrit, ouais. Bah je trouve que dans la, tu sais, le basculement du scientifique vers la SF, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Par rapport au, voilà, au voyage interstellaire et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, bien documenté. Ça m'a vraiment plu, quoi, et ça m'a touché aussi. Enfin.
Ceci n'est pas un argument. Il vient de se faire toucher là.
On a eu une magnifique imitation de la perplexité par Thomas.
Non, je suis d'accord avec toi. C'est super bien joué. Tous les acteurs sont vraiment très très bons. C'est très bien filmé. Tout ce qui est.
Pourquoi t'as pas aimé alors ?
Parce qu'il m'a perdu avec toutes les incohérences. Donc j'ai fait une liste de têtes. Je vais pas toutes vous les faire. Moi d'ailleurs.
Oui, vas-y.
Si vous voulez, le fait qu'on soit finalement spoilé dès le départ, que son fils est extrêmement mal écrit, je trouve.
De quoi ? Attends, de quoi ?
Son fils, Tom.
Ouais.
Mais il est super mal écrit. Enfin, j'aimerais pas être lui en tout cas. où j'en étais ? Vous me perdez en plus. Sans vous parler de Nolan, je suis perdu.
On a inceptionnisé ton esprit.
Thomas.
Oui.
Il est perdu.
Allez-y.
Moi, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. J'étais très impatient. J'avais été bien mis en. J'ai écouté la musique avant de voir le film. La musique, mais vraiment.
C'est qui ? C'est Hans Zimmer ?
Ouais, Hans Zimmer.
Hans Zimmer.
Je trouvais vraiment la musique géniale et j'étais assez mitigé en regardant le film. J'étais absorbé par le passage de, enfin toute la partie où il y a le voyage dans l'espace, la découverte des planètes. J'ai vraiment aimé. Je trouvais que la vision qui était donnée était très crédible, très abstraite. Tu vois, la première planète où il y a que de l'eau, ça me paraissait crédible.
J'ai trouvé ça très chouette, moi, comme idée.
Ouais, j'ai été bercé à plein de films de SF et j'ai toujours eu l'habitude de voir des mondes incroyables avec des monstres et des trucs comme ça. Et là, cette abstraction, je l'ai trouvée assez intéressante. Après, j'ai vraiment pas aimé la fin.
Ouais.
C'est cette fin-là où on revient un peu au début du film. Je trouvais l'idée bonne, mais tellement. Moins intéressante que tout ce qu'il y avait eu avant.
Oui, c'est ça. À la fois, c'est logique. Enfin, je trouve que ça va. On arrive bien là où on doit aller, mais je suis d'accord avec toi que tout ce qu'il y a eu avant était tellement intéressant que cette fin, elle est un peu. Enfin, pour le coup, trop. Peut-être trop figurative, entre guillemets. Enfin.
On peut amener plein de fins différentes à un film, je pense. Et il a choisi de l'amener comme ça et de choisir cette fin-là. J'attendais plus en fait, mais c'est peut-être justement mes attentes qui étaient trop hautes par rapport à tout ce dont on m'en avait dit, The Film, genre que c'était pas une révolution, mais un véritable petit chef-d'œuvre et tout. Je trouvais que c'était un bon film, on l'a quand même
beaucoup comparé à 2001, l'Odyssée de l'espace.
Oui, alors j'ai quand même une aberration.
Je tiens à le rappeler, ce qui est une aberration, je suis d'accord.
J'ai beaucoup aimé les robots. Je trouvais que ça faisait un
peu. On en revient, pareil, les designs, il est bon.
Je pense que c'est la meilleure idée du film.
Ouais. Mais même les petites lignes à la con pour désamorcer un peu. L'humour venait souvent de ces personnages-là, alors ça. C'était un peu trop récurrent à un moment donné, parce que t'attends à ce que le robot il dise toujours une connerie ou un truc un peu cynique comme ça, ou ironique, mais je trouvais ça assez chouette et le design effectivement était très 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 beau.
En fait, en soi, le film est pas désagréable, mais il y a un tel hype autour. Que.
Ouais, mais ça, c'est toujours.
Mais ça donne envie de taper dessus.
Ouais, mais excuse-moi, moi je trouve ça fatigant de réagir par un film par rapport au buzz qu'il crée ou pas, enfin aux réactions des autres en fait.
Pour Nolan, c'est un peu inévitable.
Non, là, je suis pas.
Oui, il a attendu au tournant à chaque film, de toute façon. Donc,
Bah oui et non, après on va au cinéma en tant que spectateur. Voilà, moi je rejoins exactement les mots de Florian, je vais pas rajouter grand chose, mais mitigé, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit, quoi. C'est-à-dire que je suis ni. Abasourdi par le génie de ce mec, ni le contraire. En fait, c'est entre les deux. En fait, il est à la fois hyper attachant dans le sens où il veut faire du cinéma à l'ancienne. Moi, je peux pas dénigrer ça. Le mec, il va se faire chier à filmer en pellicule, qui va mettre le moins de possible.
On peut pas cracher là-dessus. De CGI, voilà. Génial, tout.
Là-dessus, rien que sur le boulot, voilà. Je peux juste pas aller cracher sur la gueule d'un mec comme ça. Et effectivement, moi, ce qui m'a plombé le film, c'est effectivement la fin. Qui est juste pas, enfin voilà, c'est pas crédible du tout, quoi. Là, toute la partie, l'espèce de twist final, dans la, je crois qu'on appelle ça la plus que quatrième dimension, là, la cinquième ou sixième dimension. Voilà, ça c'est vraiment le truc qui m'a plombé avec l'histoire de. Enfin, Bon, est-ce qu'on peut encore spoiler ou pas?
C'est dur d'appuyer avec dessus sans spoiler. Mais...
Voilà, avec l'histoire du message transmis en morse et en mode binaire, c'est juste pas possible. Voilà, c'est vraiment le truc con. C'est exactement ce qui avait planté le dernier film Batman, le Dark Knight Rises.
Bon, c'est pas la seule chose qui avait planté ce film.
Ouais, voilà, ça allait jusqu'à la mort de Marion Cotillard et la bombe avec.
Au contraire, c'était un des meilleurs trucs dans le film.
Ouais, bon, bref.
Le truc que j'ai trouvé le plus crétin dans le film et qui en même temps m'a fait énormément rire, c'est le moment où son fils Tom lui envoie le message et qui lui dit en ton honneur, j'ai appelé mon fils Cooper. Ça veut dire que son gamin il s'appelle Cooper.
Ah oui.
Ah ouais.
Et là, tu te dis, mais non, c'est pas écrit, c'est pas possible, ils l'ont improvisé.
Ah ouais, c'est un peu son équivalent à la mort de Marion Cotillard, si tu penses bien. C'est le truc, tu. Pourquoi
Peut-être.
Ah, moi, ça m'a fait tomber sur les genoux.
Un truc comme ça dans chacun de ses films, et... pour c'est nous
le...
faire rire.
C'est le même, en fait.
Ce que tu disais tout à l'heure, en tout cas, par rapport à l'humour, c'était pas bête. Parce que je prends la parole parce que j'en ai pas encore parlé. Hein. Mais moi, déteste. Non, mais j'ai toujours eu horreur de Christopher Nolan et je pense que de toute façon, quasiment tout le monde autour de la table le sait. Parce que j'en ai assez parlé.
Privé,
en tout cas. Mais moi, j'ai toujours eu horreur de ce type. Enfin, j'avais même écrit un article il y a quelques années sur ce mec pour essayer de le clasher parce que vraiment, j'ai horreur.
Qu'est-ce qu'il t'a répondu?
Il m'a pas répondu.
T'as fait une vidéo YouTube où il te reclash.
Il y a que les mecs que je clash qui sont de Metz qui me répondent parce que sinon c'est trop loin.
Non mais
tout ça pour dire que j'avais pas du tout arrêté de faire du morse sur la table. J'avais pas du tout aimé aucun de ces films.
Même le premier?
Non, mais Memento, mais rien du tout.
Non, mais est-ce que quelqu'un a vu The Following, par exemple?
Je l'ai vu aussi, pardon. Et The Following, j'ai pas aimé, non.
Non, j'ai pas vu.
Le seul que j'ai vraiment aimé, je suis rentré, en fait, c'était Insomnia. Et Dieu sait que moi, je suis fan de Polar.
Parce que ça te concerne. Parce que tu connais bien le sujet, c'est ça?
Parce que tu t'es endormi devant Insomnia.
C'est le seul film où c'est la
bonne. Non, mais je suis fan de Polar, j'adorais l'original. Qui était danois, non pas danois,
scandinave, européen. Ça permet de tout passer européen.
Qui était en tout cas un film mondial, un film qui était
planétaire,
réalisé à l'intérieur du monde, et donc qui était très très bien. Et le remake était vraiment cool. Et j'aime pas du tout les remakes non plus. Mais voilà, le problème en fait avec le reste de Christopher Nolan, c'est qu'arrêter de rire, c'est pas drôle.
C'est même pas drôle en plus.
Non, c'est pas drôle.
Où voulais-tu en venir?
J'ai vraiment un gros problème avec lui. Le problème, c'est que ça revient toujours à. Le film se termine où la trilogie. Le film où la trilogie se termine, quand c'est en l'occurrence Batman, on revient toujours en boucle. On revient toujours à une fin qui, si ça avait été un seul film, ça aurait été original. Mais le problème, c'est que là, c'est à chaque fois, quoi. Et on revient à chaque fois sur la boucle, sur la fin, c'est le début. Tu vois, on revient toujours à une espèce de cercle qui fait que ça explique ça. Mais sur Interstellar, je trouve que ça marche très très bien pour tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour une fois, Christopher Nolan assume de faire un blockbuster. Alors que jusqu'à maintenant, pour moi, il assumait pas le fait qu'il ait des centaines de millions de dollars et qu'il fasse un blockbuster. Pour moi, c'était vraiment pas assumé du tout. Dans l'écriture et dans le parti pris de un peu intellectuel. Voilà, c'est ça. Mais là, il l'assume et il l'assume en partie grâce à l'humour, parce que ce qui fait la force d'un blockbuster à chaque fois et dans n'importe quel blockbuster, c'est l'humour à chaque fois, même si c'est une toute petite touche. Mais voilà, et donc je tenais à dire que moi j'avais vraiment beaucoup aimé Interstellar. Après, malgré tout ça, enfin la fin aussi m'a un peu laissé perplexe, mais j'ai beaucoup aimé ce film, et en partie c'était aussi par le fait qu'il reconnaisse lui-même, en tout cas l'impression que j'en ai eu, que c'était un blockbuster et qu'il mette des vrais éléments de blockbuster dedans, et j'espère qu'il va continuer comme ça. Et j'en parlerai tout à l'heure encore une fois, mais il se peut qu'il réalise le prochain James Bond. Ah oui. Je suis très.
Oula.
Ah oui, non, moi ça me fait très très peur. Hein.
Big news.
Mais peut-être que on arrive à quelque chose, quoi.
Ça va être un gros James Bond sur le terrorisme et tout.
ça va être un James Bond dans lequel à la fin il y aura une toupie qui tourne et puis, peut-être qu'elle tombera, peut-être qu'elle tombera pas. Voilà.
Et juste, il y a juste un truc dont on n'a pas trop parlé et pourtant moi je trouve que c'est l'élément le plus discutable du film. Et toi t'en as parlé Florian en disant que t'aimais bien, mais moi je trouve que l'utilisation de la musique est franchement.
Oh, elle est lourde.
Et voilà, c'est du gros surlignage.
Tout est appuyé.
Ben, le seul truc qui m'a vraiment dérangé pendant le film c'était ça en fait.
Entre pendant les dialogues, le mec qui est bloqué sur une seule touche de clavier.
Ça c'est Hans Zimmer.
C'est pendant 25 secondes.
Hans Guetta.
Et puis le reste, tout pour mettre de l'émotion grâce à la musique, c'est vrai que ça s'arrête jamais. C'est fin chiant.
Moi, ouais, j'écoutais la musique avant de voir le film, et du coup, je l'écoutais comme ça, sans les images. La musique fonctionne très bien. Peut-être qu'elle fonctionne mieux sans les images qu'avec les images, mais en tout cas.
C'est un comble quand même.
Ouais,
Non, mais il faut quand même reconnaître que pour une fois que Hans Zimmer fait quelque chose d'un peu différent. Et pareil, Hans Zimmer, j'ai toujours eu beaucoup de mal aussi avec ses BO, mais là, pour une fois, c'est très épuisant. En tout cas, ça se prête énormément au film, quoi.
Disons que Nolan est quand même sur ce film assez bon pour faire passer certaines émotions. Pourquoi les surligner au gros marqueur cette musique-là ?
Surtout qu'il vient pas avec la piste de chat.
Après, je pense que c'est une question
émotion,
de réception aussi. Moi, je l'ai pas reçu du tout comme ça. Mais oui, enfin après, voilà, pourquoi pas. Mais moi, je l'ai pas du tout reçu comme ça, quoi. Pour moi, la musique était un vrai argument.
Une belle musique mal utilisée, peut-être.
Mm-hmm. Ouais, moi, je dirais plus ça, moi, parce que la musique en elle-même, j'ai rien contre. C'est plutôt les moments qu'elle venait souligner, la façon dont elle intervenait dans le déroulé des émotions qui était plus gênant, je trouve. Là, ça faisait vraiment, on te prend par la main et on te montre que tu dois pleurer.
Attention, si t'as pas compris, pleure.
J'ai eu la même impression. Écouté avant, ça me gênait moins peut-être que vous.
Oui, non, moi je voulais rebondir sur ce que tu disais. Là, c'est intéressant l'histoire du. On ne sait pas exactement ce que c'est, un blockbuster, mais en même temps, il y a une réflexion métaphysique comme ça. Est-ce que vous avez eu des échos de personnes qui sont plus habituées à aller voir des blockbusters ? Parce que moi, il me semble que j'ai des personnes dans mon entourage qui sont allées voir ce film parce que justement, peut-être il y avait le côté effet spéciaux, du moins. Voilà, ça peut être comme un blockbuster. Et puis qui ressort de là en disant ouais, c'est nul parce que peut-être un peu contemplatif. Moi, je ne l'ai pas vu, mais qui n'ont pas du tout aimé parce que ils ont pensé qu'ils pouvaient aller voir ce film dans une optique de pur divertissement, je ne vais pas réfléchir, etc.
Je pense que tu peux le prendre comme ça aussi.
Tu peux très bien
être devant, poser ton cerveau à côté.
C'est ma question. Est-ce que ce type de public va s'y retrouver?
Tu peux au premier degré comme un blockbuster, quoi, si tu veux.
Bah après, il manque peut-être un côté jouissif.
Il manque peut-être de ça. Ouais. Mais d'un autre côté, t'as quand même une vraie dose d'humour.
À part l'humour, quoi.
T'as une vraie dose d'humour qui.
Mais est-ce que l'humour est subtil et fin? Tu vois, c'est ça que je.
Non, mais c'est pas énorme non plus, tu vois. Mais c'est quand même suffisant.
Il n'est pas lourd non plus.
Je pense que le film se s'auto-définit, si tu veux, comme assez grave, enfin en tout cas assez sérieux, très vite, pour que tu puisses comprendre, tu vois, qu'il n'y a pas besoin non plus d'une tonne d'humour et d'une tonne de 8e degré, tu vois.
Après, je pense que c'est un mec.
Par exemple, par rapport à Gravity, comment vous le situez, quoi?
C'est très différent.
Ça n'a rien à voir à part le fait que ça soit dans l'espace finalement.
Oui, mais je te parle du public visé.
C'est marrant parce que
c'est vendu.
Disons que Nolan n'est pas que pour celui-là, pour la plupart de ses autres films, arrive à faire croire que ces films sont très 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 intelligents et en fait ils le font pas et en fait ça veut dire que le tout venant qui n'a pas forcément l'habitude de décrypter des films ou se dit putain c'est compliqué, je l'ai compris en gros et
il y a une espèce de vulgarisation comme
Inception
Inception c'est le film le plus bête du monde
qui donne une sensation de complexité, tu vois,
c'est ça, ouais, c'est juste une sensation de complexité. Je pense que c'est pas péjoratif, mais que le tout public aime ça.
Et juste pour revenir sur ce que tu dis, après on va peut-être passer à autre chose, mais c'est assez marrant que tu te demandes la façon dont les gens l'ont reçu avec Gravity, parce que moi la seule personne que je connais qui est allée voir, enfin qui s'est tâtée à aller voir Interstellar et qui est plutôt dans du blockbuster, c'est mon père, je reparle encore de toi papa, mais et qui quand je lui ai dit que ça lui plairait Interstellar et qu'il devrait aller le voir, m'a dit je sais pas trop, j'ai l'impression qu'ils ont voulu surfer sur la vague avec Gravity là, que moi j'ai aimé, mais ça a l'air d'être la même chose. Et je lui dis mais non, mais donc du coup il y a peut-être eu un côté qui a pu être reçu de d'être vendu pareil alors que pourtant ça n'a tellement rien à voir.
D'accord avec toi Thomas, c'est sans doute pas la même chose, mais malheureusement je trouve que ça a peut-être été un peu
Moi je pense que ça a pu être
de la même manière.
Oui oui oui.
Malheureusement
sauf qu'il n'y a pas les plans face sur Sandra Bullock.
OK, mais il y a aussi la musique un peu lourde et qui vient rajouter au propos. Moi c'est vraiment le truc qui m'a saoulé dans Gravity plus que dans Interstellar d'ailleurs. C'est l'omniprésence de la musique pour nous raconter deuxième fois l'histoire au cas où on n'aurait pas compris. Voilà, ça c'est vraiment le côté un peu chiant. Moi j'ai vraiment plus
la musique de Gravity, je ne sais plus.
Je sais pas non plus. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça plus choquant dans Gravity que dans Interstellar.
Est-ce que vous avez vu la version Price, je rebondis sur Gravity juste 30 secondes. Est-ce que vous avez vu la version
rebondir sur Gravity, vas-y. Elle fait que ça, Sandra Bullock, rebondir. Vas-y, rebondis comme elle.
J'aimerais bien rebondir sur elle.
Et tu n'as pas senti ça.
Oh putain, arrête, m'en parle pas. J'en rêve les nuits. Mais est-ce que.
Même pas un buzzer d'Étienne, quoi.
Est-ce que vous avez vu la version de Gravity où, sans musique, il est sorti une version apparemment où il n'y a absolument pas de musique comme
c'est chiant ou pas ?
Je sais pas, j'ai pas vu, j'aimerais bien avoir des avis justement. Où tu n'as pas de musique, pas de bruitage, comme si tu étais réellement dans l'espace, donc en totale immersion. Donc c'est pas sorti au cinéma, mais apparemment c'est une version qui est sur
sans musique, ça me dérangerait pas, mais sans bruitage, ça serait con parce que c'est un des meilleurs éléments du film, c'est la partie sonore du film.
Pour s'appuyer sur du réalisme,
comment ils ont recréé les sons qui sont disponibles dans l'espace. Moi, pour moi, c'était vraiment la meilleure chose de Gravity. C'est les mecs qui ont bossé sur le son.
Le son dans l'espace.
Sur l'absence de son,
ou l'absence de son, justement, ou les sons qu'elle entend, elle, dans son casque.
Enfin, Gravity est justement très juste dans le sens où il n'y a pas de son quand ils sont dans l'espace. Donc je pense que.
C'est quand même appuyé par la musique. Bon, je l'ai vu quand c'est sorti, mais c'est quand même appuyé par.
Il y a de la musique, d'accord.
Mais c'est la musique, il n'y a pas de
son. Bon, à mettre au conditionnel, mais il me semble que la version est sans bruitage aussi.
Pour citer la critique d'un certain Valentin Maniglia.
Ah, c'était
moi ? Oui, c'était toi qui as dit ça, ouais. C'était le seul truc bien de ta critique, d'ailleurs. Excuse-moi.
Bon, bah écoute, nous allons toujours citer Valentin Maniglia, pardon. Oui. Tout à l'heure, tu parlais d'Al Pacino dans un film de Christopher Nolan, ton préféré. Et il revient un peu vieilli, avec 15 ans d'âge, dans The Humbling.
Alors,
dont il va nous parler après la bande annonce. Bah oui,
pardon.
Bah voilà, c'est parti.
Do you believe that moan I just did?
I did.
I didn't. Can I try that again? No, that's too much.
We're gonna keep you pretty busy here over the next 30 days.
Say it doesn't work out here for me, and I go home and I kill myself. Can I get my money back?
Be the spokesperson for everything in the general
hair loss.
What about my dignity? A commercial that has hair in it. My hair.
Simon Axler with the charisma that kills. What happened?
Want to stay for dinner? Well, she's my friend's daughter.
She's had these fantasies about you. She glorified you.
She thinks I'm starstruck.
And she's a lesbian. A flirtatious lesbian.
Lesbian.
Oui.
Alors Valentin,
bonjour.
Vas-y.
Eh bien voilà, il y a quelques jours avec Margot, on discutait des acteurs un peu qui avaient disparu et on se demandait ce qui était devenu Al Pacino. Alors non mais Rufus, on dit on s'était demandé très sérieusement ce qui était devenu Al Pacino.
S'il avait disparu dans une faille.
Eh bien non. Eh bien il est bien de retour et il est dans The Humbling, donc qui sort.
Il n'y a pas Adam Sandler et Gad Elmaleh.
Adam Sandler et Gad Elmaleh cette fois-ci, mais qui sort donc le 8 avril au cinéma. C'est un film de Barry Levinson, donc lui aussi. Il y a un petit bout de temps qu'on s'était demandé ce qu'il faisait, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas au Festival de Gérard Armé il y a quelques années, puisqu'il avait réalisé un super film d'horreur qui s'appelait The Bay.
C'était vraiment
Le producteur de Paranormal Activity très bon et Insidious, comme tous les films d'horreur de maintenant. Et ouais, c'était vraiment très bien. Ouais. Et Barry Levinson, il avait fait d'ailleurs, il y a un an avant The Bay, donc il y a maintenant 4 ans, il avait fait un téléfilm pour HBO qui s'appelait You Don't Know Jack, et qui était avec Al Pacino, et qui racontait l'histoire une histoire vraie d'ailleurs d'un médecin. Qui prenait en fait la liberté d'euthanasier des patients qui étaient vraiment en fin de vie, enfin très très grave quoi, et qui avait été condamné pour ça. C'était un super téléfilm HBO que je recommande parce qu'il était très très bien quoi. Et donc 4 ans après, il revient donc il reprend Al Pacino pour un nouveau film qui s'appelle donc The Humbling, dont on va parler, qui est l'histoire en fait d'un qui est un petit peu qui renvoie en tout cas à la carrière d'Al Pacino, puisqu'il joue un acteur de théâtre qui est spécialiste de Shakespeare, donc lui-même dans la vraie vie, ouais. Et qui donc est un petit peu voilà un petit peu acteur déchu, qui commence à vieillir et qui un jour en fait pendant une représentation donc d'une pièce de Shakespeare fait une chute, tombe de la scène. Et à partir de là, en fait, il va décider d'arrêter le métier d'acteur parce qu'il trouve, il se trouve trop mauvais, il trouve qu'il a plus l'âge pour ça, et tout, plein de raisons en tout cas qui font qu'il veut, il veut arrêter. Et il se retrouve donc.
C'est Ben Affleck.
Il a fait une sacrée chute de scène.
Non, mais en tout cas, il se retrouve donc chez lui, et puis il y a une jeune fille qui débarque en fait un peu à l'improviste, la fille d'un de ses meilleurs amis, qui est lesbienne, et il va tomber amoureux d'elle. Donc voilà, c'est une rigole pas, Charlotte. T'es tombée amoureuse d'Al Pacino aussi.
Non, mais je sais que elle aussi change de bord pour lui. Et ça m'énerve.
Oui, elle aussi.
Ça m'énerve.
C'est sérieux.
Alors. Pas, non, bah, vous avez pas vu le film.
On est d'accord, Margot.
Rentre dans le droit chemin,
tu pas,
Charlotte.
Tu n'as pas vu le film, Margot, tu sais pas de quoi tu parles.
Non, mais je sais juste.
Présente-moi
si...
Al Pacino.
Mais vous savez que même à 70 ans, il a encore le torse épilé, donc il est encore beau gosse. Enfin, bref. Non, mais donc tout ça, voilà, pour dire que le film est pas si mal. C'est plutôt bien fait. C'est filmé de manière assez originale. Parce que le personnage, enfin en tout cas le personnage qui porte le film, c'est vraiment Al Pacino. Ça faisait des années qu'on l'avait pas vu au cinéma, enfin en tout cas dans un vrai rôle. Des rôles de merde on l'a vu, mais là dans un vrai rôle principal, en tout cas très très fort quoi. Ça fait des années qu'on l'a pas vu et il porte vraiment le film. Alors c'est un personnage qui a des vrais problèmes en fait psychologiques. On découvre qu'il a des, enfin on découvre, on le l'apprend très très vite dans les premières minutes du film qu'il a des hallucinations, qu'il a de vrais problèmes en tout cas au niveau du cerveau. Pendant tout le film en fait, il y a une espèce de voix off qui nous suit et c'est lui qui parle à son psy. C'est vachement intéressant et donc voilà, c'est ce qui est intéressant à voir. Enfin ce qui est intéressant à voir, ouais, c'est déjà de se rendre compte que Al Pacino. Et d'une part, parce que c'est quand même un nom qui en jette, quoi, qui quelque part nous pousse.
Dis qu'on parle d'un Italien, toi.
Non, mais même pas. Mais c'est juste que voilà, c'est quelque part le dernier grand acteur d'Hollywood à ne pas avoir vendu son âme, si tu veux, pour jouer des personnages un peu de guignol ou de parodie de lui-même, comme Dustin Hoffman ou Robert De Niro, tu vois.
Robert De Niro.
Non, mais c'est vrai, voilà.
Surtout.
C'est
dans Luc Besson, n'est-ce pas?
Dans Luc Besson, mais même dans les trucs avec
Malavita.
Ben Stiller, tu vois. Non, mais voilà. C'est ce genre de truc, quoi. Le gars qui cabotine à fond. Al Pacino, il reste quand même très, très lui-même, quoi. Et moi, le film m'a beaucoup fait penser à. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, c'est le premier film qu'il avait réalisé, ça s'appelait Looking for Richard. Et en fait, c'est donc une espèce de faux documentaire, enfin, un faux docu-fiction en tout cas, sur lui-même, qui fait des recherches en fait sur le personnage de Richard III, comment est-ce que d'autres acteurs le joueraient. Alors, il y a Alec Baldwin, Kevin Spacey et je sais plus qui, enfin, plein de types qui font du théâtre aussi.
Richard III, c'est du Shakespeare aussi.
Oui, Richard III, c'est Shakespeare aussi. Ouais.
Désolé de mon inculture.
Et du coup, non, mais voilà, ça m'a fait aussi beaucoup penser à ça parce qu'il y a plein de moments dans le film où c'est lui-même qui réfléchit sur sa condition d'acteur, sur sa condition à. Il y a une scène que je trouve vraiment pas mal, qui est dans la première partie du film et qui dure très très longtemps, où c'est donc une nana qui est fan de lui. Et qui vient un peu le stalker en fait, qui vient tout le temps chez lui, qui vient tout le temps le voir et tout, et donc lui se sent faible et du coup est obligé de la recevoir. Et un jour il passe un moment avec lui. La nana lui raconte l'histoire de sa vie. En gros, elle découvre que son mari en fait violait sa fille. Et elle raconte ça très, tu sais, de manière très 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 ouverte en fait. Et Al Pacino en fait qui donc t'as sa voix off qui donc tu l'entends penser en fait et qui dit voilà je m'en fous complètement de ce qu'elle me raconte, tout ce que je me dis c'est est-ce qu'elle a l'air crédible quand elle le joue, est-ce que vraiment quand elle le dit, que si moi je dirais quelque chose comme ça sur scène ça a l'air crédible. Et tout le film est fait de plein de réflexions de gens qui racontent leur vraie vie où il se passe des trucs horribles ou des trucs super bien, et lui en fait a toujours cet automatisme en fait de se dire on s'en fout que ce soit vrai ou pas, est-ce que vous le jouez bien, quoi? Est-ce que quand vous le dites, ça a l'air crédible pour moi? Et ça, c'est vachement intéressant, ouais. Et après, ce qui est par contre moins intéressant, c'est le cœur du film, qui est l'histoire d'amour avec Greta Gerwig, donc qui joue cette jeune lesbienne qui est.
Qui est extraordinaire, moi j'aime beaucoup.
Mais Greta, moi j'adore Gerwig, cette actrice.
Elle est issue du mouvement
Mumblecore. Ouais.
Mumblecore.
J'adore cette actrice, hein, je la trouve géniale. Ouais. Et ce que j'adore aussi, c'est aussi que ce film permet aussi de une espèce de rencontre des deux générations, quoi, de la grande génération du Nouvel Hollywood et puis voilà des jeunes de maintenant qui commencent un peu à percer. Et c'est intéressant, mais en même temps, il y a quelque chose qui manque, quoi. Il y a quelque chose qu'on attend un peu plus, tu vois. Et voilà. Mais après, alors, c'est adapté d'un bouquin de Philip Roth.
Oui.
Alors, Philip Roth, comme dirait Margot.
J'avais dit à Aurélien que j'interviendrais parce que oui, Philip Roth, je connais bien.
Et moi, je connais pas assez, justement. Ouais.
Il était au.
Ça va, c'est bon, hein.
Au programme de l'agrégation il y a 2 ans, donc j'ai bien bossé. C'est palpitant. J'avais lu American Pastoral de lui, qui est un roman de, je sais pas, de
Jacques Sire, trop comme ça. Accent.
American Pastoral. Et The Humbling, donc c'est un roman qu'il a publié il y a 2-3 ans, qui est très court. Je l'ai pas lu, mais j'ai vu l'objet et c'est très fin. Et Philip Roth, c'est un vieux libidineux, si vous voulez. Voilà, c'est
le bouquin est rempli de vieux libidineux en voilà, plus. Enfin,
c'est un sacré personnage. Voilà, c'est un New-Yorkais ou un quartier de New York. Il est d'origine juive et il s'est fait remarquer très rapidement au début de sa carrière. Je crois que son roman s'appelle Portnoy's Complaints et ça m'a fait rigoler que tu parles de. Tu as parlé de psychiatre, hein, de rendez-vous avec le psy. Oui, il s'était fait remarquer.
Il y a un personnage récurrent du film.
Remarqué par ça dans son premier roman. Il y avait des choses assez, assez trash au niveau des, des descriptions assez vivides de la sexualité. Donc c'est un romancier qui est très subversif, assez provocateur. Et donc là, c'est effectivement un de ses derniers romans qui est adapté. Donc je voulais parler de ça pour cette raison, parce que je connaissais l'auteur, j'ai hâte de voir le film, moi j'ai pas encore pu le voir. Il sort le 8 avril. Oui. Et autre chose, j'ai lu un article sur ce film dans le New Yorker, qui est intéressant, qui justement critique un petit peu le côté très égocentrique autour de Al Pacino, de ce personnage. Voilà, qui critique un peu le fait justement que le personnage joué par Greta Gerwig tombe sur son charme, tout ça. Donc c'est un petit peu une mise en valeur d'Al Pacino.
C'est une mise en valeur, mais en même temps c'est pas tellement ça, quoi, parce que lui-même, on montre comme un peu détruit, quoi. Il y a une scène d'ailleurs qui est très. Je dis ça et puis après je te laisse. Mais il y a une scène où d'ailleurs moi je l'ai trouvé très. Enfin en tout cas son personnage est très ridicule. C'est que Greta Gerwig donc explique que. Elle était tombée amoureuse d'une nana, enfin un peu plus âgée, quoi, qui était sa prof. Et cette nana vient chez Al Pacino, en fait, lui passe des coups de fil anonymes dans la nuit pour savoir où est Greta Gerwig parce qu'elle veut la voir et tout ça. Et elle se pointe chez lui, en fait. Et donc il y a une rencontre. Alors lui sort, tu sais, avec son fusil, voilà, dans la nuit, dans son espèce de jardin. Et puis la prof est là, quoi. Et puis il y a un moment quand même où tu sais il y a une espèce de blanc, puis il se regarde et puis la nana lui dit c'est bon, j'ai compris, vous avez envie de me baiser parce que tout ce qui vous intéresse c'est de faire virer la cutie, quoi, aux lesbiennes, quoi.
Je suis d'accord, je pense que
il y a plein de moments qui sont voilà très.
Et ça colle avec Philip Roth qui va avoir une vision de lui qui est pas glorieuse, mais n'empêche qu'il a un sacré ego. Et je pense que ça a des répercussions sur toutes ses œuvres. Il travaille sous forme de double et d'alter ego. Donc encore dans cette œuvre-là, je ne sais pas quel âge a le personnage, mais Philip Roth, il doit avoir à peu près 70 ans, un peu omnubilé par la mort. Enfin, je ne sais pas suicide dans le film,
je crois
que c'est l'histoire aussi. Et donc toujours très proche de ses personnages, Philip Roth. Et donc c'est un côté très égocentrique. Voilà, mais c'est intéressant. C'est très grand auteur contemporain américain. Et j'ai très hâte de voir aussi Greta Gerwig qui est une actrice assez exceptionnelle.
Le film est très
naturel.
Très porté par Al Pacino parce que c'est lui vraiment qui porte le film. Mais Greta Gerwig a une vraie place dans le truc. Et le film est à voir en tout cas. Voilà, il y a plein de choses très originales, comme je disais tout à l'heure, dans le film. Et c'est pas. Ultra réussi, je pense qu'on le retiendra pas autant que les grands films de Barry Levinson, Rain Man et Good Morning Vietnam, Sleepers, je sais pas lequel. Mais c'est quand même à voir, parce que c'est quand même très intéressant.
Ça marche, donc ça sort le 8 avril, c'est ça, au cinéma chez Metropolitan.
Je n'ai absolument aucune idée de comment enchaîner sur Mad Max, mais voilà, je suis laissé partir. Voilà. Merci Florian.
C'était la meilleure transition.
Et je te laisse enchaîner avec un petit extrait de la bande-annonce. As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me or everyone else.
On a envie de le voir.
On a très envie de le voir. Ce petit moment de bande-annonce était juste destiné à Jean Chevelot, qui était venu nous voir il y a 3 émissions de cela.
Le harcèlement. Quoi.
Le harcèlement moral, lui qui ne veut absolument pas découvrir la bande-annonce et en savoir le moins possible sur ce film tant attendu. Mais voilà, en tout cas, la bande-annonce a été diffusée hier. Enfin, par rapport à notre jour d'enregistrement le 1er avril. Donc voilà, moi clairement j'ai pas pu résister à l'idée d'aller voir ce que nous avaient concocté les monteurs de ces bandes annonces, en sachant que la dernière bande annonce qui datait quand même de juillet dernier avait été spécifiquement refilée à un monteur professionnel, un mec qui a l'habitude de bosser là-dedans pour nous concocter une des bandes annonces en tout cas les plus intéressantes de.
C'est la meilleure de l'année.
Ouais, je clairement, voire même depuis longtemps. Enfin, moi, je persiste à dire que voilà, ça reste, c'est au-delà de la bande annonce.
C'est un court métrage.
Ouais, voilà. Clairement, le mec, il s'est un peu fait chier. Celle-ci, un tout petit peu moins intéressante, voilà, parce que.
Bah c'est une vraie bande annonce.
Ça, j'ai pas vu la dernière, voilà. Par contre.
Mais... D'une, parce que la surprise est un peu passée. De deux, parce que elle est beaucoup moins énigmatique que la dernière. Elle commence à dévoiler un peu l'histoire qui risque. Enfin voilà, ce qui risque d'arriver dans le film. Donc voilà, ça nous spoile un peu sur les enjeux dramatiques du film qui sont, à mon avis, pas plus intéressants que ça. Ça va être une course-poursuite dans le désert entre Mad Max et un méchant qui veut récupérer ses esclaves, hein, si je peux spoiler. Enfin, en tout cas, la bande-annonce.
Apparemment, Emilius l'a dit, c'est une course-poursuite.
Voilà, ça restera une
course-poursuite d'une heure et demie dans le désert, et ça, c'est super prometteur. Voilà. C'est bien fait.
Mais après, au-delà de ça, ce qu'on y recherche, c'est pas tant l'histoire, mais juste le génie de George Miller de réaliser un film. Voilà, ce mec un vrai truc entre les mains. Il a de l'or entre les mains. Il sait comment enchaîner ses plans et comment nous provoquer le maximum de sensations. Et voilà, ça risque d'être un film très immersif. J'ai vu qu'il était disponible en 3D et même en IMAX, il me semble. Moi, j'ai jamais couru après l'IMAX, mais clairement, ça, c'est un des seuls films. Voilà, si je pouvais avoir l'occasion d'aller le voir en IMAX, je pense que j'irais, parce que je pense qu'il s'est un peu fait chier à réfléchir le travail de cadrage, de montage, etc. Donc voilà, grosse. En tout cas, j'en avais déjà parlé à la première émission. C'est le film que j'attendais cette année.
C'est une énorme attente.
C'est confirmé, voilà. Ou pas que c'est l'ouverture de Cannes.
Non.
C'est à Cannes, mais on ne sait pas si c'est l'ouverture.
Les rumeurs sont favorables, mais il n'y a pas de confirmation. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, en tout
des
cas,
fois,
au jour de l'enregistrement, il n'y a pas de confirmation.
Il y a des grosses sorties le dimanche soir aussi.
Je ne vois pas ça en ouverture.
Le festival commence le mercredi. Moi, je sais que j'avais assisté à l'avant-première de Kill Bill 2. Et c'était dimanche soir. Je sais pas, c'est un petit peu un truc aussi de d'appeler blockbuster le dimanche, donc c'est pas évident que ça fasse l'ouverture.
Je sais pas trop.
L'année dernière, c'était Grâce de Monaco, hein, qui a fait un énorme fiasco.
J'allais dire en ouverture, il y a les mauvais films en général, non ?
Pas des mauvais films, mais bon, après, c'est Wes Anderson, il y a 2 ans, Moonrise Kingdom. Ça dépend.
C'était très très bien. Ça.
Mais là, ça a été annoncé, mais ils ont pas donné la date.
Avec Johnny Hallyday, qui avait fait l'ouverture de Cannes. Et ce film était assez légendaire. Hein. Je remercie Michel Imbert de l'avoir programmé au caméo, parce que c'est là que je l'ai vu.
Ah, naturellement.
Voilà.
C'est dommage qu'il n'y ait pas
en présence de Johnny. Avec Sylvie Testu également.
Alors, j'ai pas vu le film, mais je cite un de mes très très bons amis qui m'a dit « Écoute, si tu sais pas que c'est Johnny, il est bien en méchant. » J'en sais pas plus.
Ok, et donc voilà, c'était le moment d'enchaîner sur les futures grosses sorties de blockbusters, parce que vous le savez, ici on adore les blockbusters, on adore le popcorn, on nous l'a bien fait comprendre il y a quelques mois. Et la seconde grosse, grosse bande annonce qui a été annoncée cette semaine, nous rappelons que nous enregistrons le 1er avril, c'est celle du prochain James Bond, qui ne sort que dans 7 mois, hein, Valentin. Et donc voilà, tu vas nous en parler un petit peu.
On aura droit à une chronique donc, voilà. Pendant toutes les deux semaines pendant 7 mois.
À peu près. Donc nous avons 34 secondes de bande-annonce que Étienne va nous lancer pendant que Valentin pleure.
Et après, mais en vrai, elle dure une minute et demie, pourquoi tu l'as pas mise en entier?
Parce que c'est juste pour t'emmerder.
Cher auditeur, si t'aimes pas James Bond, tu peux partir pendant au moins 25 minutes.
You're on a kite dancing in a hurricane, Mr. Bond.
Welcome, James. It's been a long time. And finally, here we are.
Alors, Valentin.
Moi, perso, mon truc, c'est les gang bonds.
Mais quoi?
Je pense que Thomas est banni à vie.
Bon, Valentin, à chaque fois.
J'imagine que tu vas nous parler avec amour de la Spectre, en tout cas.
Je vais en parler avec amour. D'ailleurs, tu sais quoi? Je lâche même mon petit carnet.
Vas-y, lâche ton carnet.
Ah, franchement, je lâche. Je suis en freestyle.
Vas-y, freestyle, voilà. Mec.
Non, mais donc cette semaine, là, enfin cette semaine, en tout cas la semaine où on enregistre, donc la semaine dernière, pardon, a été... je sais plus me repérer dans le temps. Donc il y avait... je vais faire tomber des livres, tu sais. La première bande-annonce, le premier trailer de Spectre, donc le nouveau James Bond, a été dévoilé enfin, après 3 mois de tournage. Le tournage n'est pas fini, il se termine
en juin. Oui, c'est ça qui est intéressant, que le tournage n'est toujours pas fini.
Le tournage se termine en juin, donc là, en ce moment,
c'est
ils sont...
En ce moment,
ils sont au Mexique, ils ont tourné en Autriche. Ils ont tourné au Mexique, ils ont tourné à Rome. Une scène qui sera assez courte apparemment. Et donc là, il leur reste plus qu'à terminer le tournage au Mexique. Et puis ensuite, ils tournent jusqu'à la fin, normalement, au Maroc.
D'accord.
Voilà. Et donc, la première bande-annonce a été dévoilée. Donc on voit enfin Christoph Waltz.
Enfin, on le voit pas vraiment.
On le voit pas vraiment, non, c'est vrai, mais on devine que, enfin, on sait que c'est lui, on le voit.
C'est le méchant.
À contre-jour.
C'est le méchant, ouais. Il a un beau contre-jour quand même.
Ouais, un beau contre-jour, ouais. Et du coup, ouais, c'est très mystérieux, encore une fois, sur son personnage. On sait quasiment rien de lui, enfin, on sait rien vraiment du tout de son personnage depuis le début, depuis l'annonce, en tout cas, du film, du lancement, du tournage et de la production. Donc ça restera la grosse surprise, je pense, jusqu'à. Enfin, peut-être que non, dans la prochaine bande-annonce, on saura tout, mais ce serait bien de continuer à entretenir un peu le mystère, parce que c'est ça aussi qui fait que ça donne envie de voir le film, quoi, parce que les fans, en tout cas, enfin, Spectre, donc Spectre, déjà rien que le titre, c'est Spectre, c'est l'organisation légendaire de l'ennemi de James Bond, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a un retour du Spectre qui, donc, a officiellement disparu, quoi? Après la mort du patron, donc Blofeld, il y a 30 ans, enfin en tout cas dans un James Bond il y a 30 ans, qui était rien que pour vos yeux. Et donc non, est-ce qu'il peut revenir? En tout cas, le nom de son personnage n'est pas celui-là, c'est un autre. Est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut être quelque chose qui a été renouvelé? Parce que dans les romans, ça a été renouvelé. C'est un autre type qui est chef de cette organisation. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais en tout cas, voilà, donc tout ce qu'on sait de toute façon en ce moment, c'est dans la bande-annonce, c'est également dans l'article qui est sur thebloggercinemaclub.com, ne l'oublions pas.
Je fais bien d'en parler.
La blogorée, comme elle dit très joliment Marc. Donc il y a des photos de tournage. De toute façon, il faut, voilà, si vous voulez un peu plus d'infos là-dessus, il faut suivre régulièrement le compte Twitter, de toute façon.
De
Blogueur Cinéma Club.
.com.
Tu rivalises pas avec Sony Pictures, Charlotte. Mais,
la news avant la news.
C'est vrai. Non, mais donc, le compte Twitter de Blogueur Cinéma Club et donc de Sony Pictures et de, le compte officiel de James Bond, enfin, de la saga James Bond.
Synchronisés.
Voilà, tous les trois synchronisés. De toute façon, on est toujours connectés les uns les autres. Non, mais voilà, donc c'est, il y a encore le mystère qui plane, quoi. On ne sait pas trop ce que sera l'histoire. En tout cas, ça va certainement renvoyer au passé de James Bond, avec clairement un renvoi direct, enfin une suite directe à Skyfall, puisqu'il y a déjà, c'est cité même dans la bande-annonce,
ouais, dans la bande-annonce
que après l'incendie à Skyfall. On a retrouvé donc des choses qui renvoient à son passé, et puis on va voir ce qui va se passer Et il est donc entraîné encore une fois avec quelque chose qui a rapport avec sa vie privée, sa vie personnelle. Et donc ça assume clairement de toute façon le fait au bout de 4 films, enfin voilà, ça continue dans la lignée de Daniel Craig, ça va être quelque chose de très personnel, de très sombre, on va continuer dans cette lignée, ça a marché très très bien jusqu'à maintenant, à part pour Quantum of Solace, mais bon c'était l'exception, mais en tout cas ça a marché très très bien jusqu'à maintenant quasiment, et j'espère que ça va continuer à bien marcher, c'est Sam Mendes qui réalise encore une fois, de toute façon je vais vous en reparler de toute façon, mais voilà c'est Sam Mendes, c'est toujours la même équipe. On est bien. Il y a Monica Bellucci qui est très très belle et qu'on voit dans la bande-annonce. Il y a Léa Seydoux qui est moins belle mais qu'on voit pas dans la bande-annonce, donc c'est pas grave. Et il y a Christoph Waltz qui a la classe et qu'on voit qu'en ombre, mais qui même en ombre a la classe.
Mais il y a son petit accent quand même.
Il y a son petit accent autrichien.
D'accord. Et tu peux nous en dire un peu plus sur la troisième James Bond girl, la mexicaine?
Alors la troisième Velasquez. James Bond girl s'appelle Stephanie Sigman. Ah, c'est une. C'est
une. Bon, Velasquez. Ça...
Elle avait...
C'est
pareil. Hein.
C'est son troisième nom.
C'est son. Voilà. Bah, oui. Elle s'appelle sûrement Stephanie Maria.
Sigman Velasquez de la Hoya.
Paquita Velasquez. Hola. Et donc, bref, cette information qui a le goût des tacos et de la salsa.
Des tortillas.
Ça me rappelle une fille que j'ai bien connue, les tortillas. Ah.
Non, mais donc, clore, parce que là, ça va trop loin. Non, mais Stephanie Sigman, c'était l'actrice principale d'un film qui était vraiment très très bien, que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Miss Bala, qui était un thriller c'est pas drôle qui était un thriller dans lequel donc l'actrice principale était donc cette Stephanie Sigman qui jouait une miss beauté qui était liée après à une affaire de drogue et de cartel de la drogue, enfin bon bref voilà, mais c'était vraiment pas mal et donc elle a été choisie et elle a une petite controverse voilà par rapport au fait qu'ils aient tourné au Mexique parce que le Mexique aurait donc offert à peu près 20 millions de dollars à la production, à Sony Pictures, pour donner une bonne image du pays et pour engager une actrice très populaire au Mexique pour qu'elle ait un rôle de James Bond girl dans le film.
C'est horrible. Donc voilà. Bientôt après, les Jeux Olympiques.
Est-ce que c'est ça. Il se trouve que bon,
c'est quelque, ça, part, hein.
Quelque part, en tout cas l'info a pas été démentie, elle a été reprise en plein de magazines très sérieux et donc oui, c'est pas impossible, mais d'un autre côté, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de ça, je sais pas, mais. Enfin, affaire à suivre. Peut-être qu'elle est très très bien dedans et qu'on sera très très bien content que le Mexique ait forcé la main à la production.
Et donc, d'accord. Léa Seydoux de chez Pathé Film. C'est le parallèle. Qui est également James Bond girl, quoi.
Donner une bonne image d'une maison de production pas très.
D'accord.
Donné 20 euros.
Par contre, du coup, je peux te relancer sur Sam Mendes et Daniel Craig. Du coup, quand est-ce que ça s'arrête, la série avec Daniel Craig? Est-ce
Daniel
que c'est confirmé
Craig,
que Idriss Elba ou pas continue?
Non, c'est pas confirmé. Ça, c'est encore juste.
Parce que Roger Moore a pas l'air trop d'accord avec le fait que ça soit Idriss Elba qui continue.
Alors
quoi.
Oui, Roger Moore, il y a eu des propos. Non, parce qu'il y a eu soi-disant des propos. Il a été interviewé dans Paris Match il y a 2 semaines ou 3 semaines.
Déjà, ça annonce le niveau, quoi.
C'est une information très sérieuse de Paris Match.
Le choc des photos.
Quand il s'agit de James Bond, le poids
des mots, le choc des photos.
Et encore que ça soit pas comment le plus mauvais James Bond peut juger le prochain James Bond.
Alors quand on est le plus mauvais chroniqueur, on se tait.
Ça clash ce soir. Petit hug.
C'est pour mieux se réconcilier sous la couette.
Quand on est le Roger, quand on est le Pierce Brosnan des chroniques. On va bon, bref.
Le Pierce Brosnan, il est trop bien. C'est le
Pierce Brosnan, il est beau gosse. Déjà, je te fais un semi
compliqué.
Timothy Dalton, j'adore quand Timothy Dalton.
Ah oui, moi aussi, c'est mon deuxième préféré.
D'accord. Sauf que les poils de son torse, il les a sur le.
Non, mais bref, non, mais tout ça pour vous dire que. Je termine très rapidement parce que là, vraiment, ça devient n'importe quoi.
On est en train de violer James Bond et ça ne plaît pas à
Valentin. Non, ça ne me plaît pas du tout. Je suis en train de pleurer intérieurement. Et bientôt, ça va extérioriser.
C'était pour dire
que oui, il y a quelques semaines, il y a eu un article dans Paris Match, oui, donc qui est un magazine très sérieux, très sérieux, dans lequel il y a eu une interview de Roger Moore qui avait donc tenu des propos qui ont été interprétés comme racistes parce qu'il trouvait que voilà, Idriss Elba n'allait pas parce qu'il était noir.
Parce qu'il n'était pas très anglais.
Parce qu'il n'était pas très. Oui, enfin,
bon, anglais.
C'était ce qu'il voulait dire. Il n'était pas très anglais.
C'est pas très radiophonique.
Donc, voilà. Je trouve que c'est encore pire.
Voilà, il était afro-anglais, quoi. Mais non, mais donc
il y en
voilà,
a certainement
donc,
des biens.
Cette...
On va arrêter tout de suite hein, parce que là, franchement, c'est.
Non, mais oui. Et donc non, mais enfin bon, bref, peu importe tout ça, mais oui, donc voilà, il y a eu ces propos qui ont été interprétés comme racistes, qui ont été repris dans la presse anglaise et ouais, un peu partout.
Qui sont racistes.
Mais oui, non, mais qui sont racistes, d'accord, ok, très très bien. En tout cas, non, mais. Je me rappelle plus des mots tels qu'ils les aident.
Non, parce que voilà, des Mexicains, oui, mais des Noirs, non.
En même temps, ils payent les Mexicains. Mais bon, bref. Non, mais enfin, bon, non, mais tout ça pour dire que, voilà, il y a...
Les propos de Valentin Maniglia n'engagent que lui.
Peu importe, mais ça n'engage rien du tout. Peu importe ce qui s'est passé, de toute façon, la production, enfin, en tout cas, le comment dire, Aeon Productions, donc la société de production qui produit James Bond, va voir à chaque fois les anciens James Bond pour donner leur avis sur le nouveau.
Ils sont consultés.
Ils sont consultés, ouais. Bon, après, à part ceux qui veulent pas, Sean Connery ne veut plus entendre parler de ça, donc voilà. Mais en tout cas, ils peuvent être consultés et Roger Moore donne toujours un avis qui est toujours repris. D'ailleurs, il était très favorable à Daniel Craig il y a quelques années, alors que tout le monde ne voulait pas du tout de lui. Bah là, cette année, c'est l'inverse, quoi. Tout le monde veut Idris Elba et moi, j'ai pris tous les soirs pour qu'il soit.
C'est la meilleure idée du monde.
Il est excellent.
Mais il est de quelle nationalité ?
Et il est britannique.
Ah, je croyais qu'il était américain. C'est pour ça.
Ah, non, ok. Il y a une règle, si tu veux.
Oui, ils doivent être du Commonwealth. C'est pour ça que.
Et du coup, voilà, moi, j'ai très envie. Alors, à Daniel Craig, il lui reste un film, en fait.
Il lui reste un film voilà. Sous contrat,
c'est ça. C'est pour ça que c'est pas encore confirmé.
D'accord. Et on sait déjà si c'est Sam Mendes qui va continuer, il va faire une trilogie ou pas.
Alors, je sais pas. Sam Mendes n'était pas, de toute façon, pas du tout prévu pour faire celui-ci.
Mais ça en soit une très bonne initiative.
Ah oui, non, c'était une très bonne initiative. Bah, en même temps, il a fallu juste attendre 2 jours après la sortie de Skyfall, voir ce que le film a fait comme recette pour que. Il soit appelé et qu'on lui dise voilà tu feras le prochain quoi.
Mais ce serait tellement bien qu'il en fasse un avec Idris Elba.
Ce serait bien qu'il fasse un avec Idris Elba, mais de toute façon ça on en reparlera dans 4-5 ans. D'ici là il y a Christopher Nolan qui peut-être en faire un aussi.
Voilà. Enfin Nolan il est
anglais ouais.
De toute façon c'est que des réalisateurs britanniques.
C'est toujours des réalisateurs du Commonwealth en tout cas.
Et donc, pour les chansons originales aussi parce
non
que là,
pour les chansons par contre ça vient de partout ouais.
Il y a déjà des rumeurs ou pas
Alors pour les chansons de cette année, il y avait comment il s'appelle ce DJ insupportable Armin van Buuren ou je sais pas. André Verschuren donc qui fera de la
Adèle, c'est la dernière ou
Adèle, c'était la dernière. Mais par contre non
c'est pas une condition
pour les chansons, c'est pas du tout une condition qui soit d'ailleurs Madonna avait fait une chanson alors qu'elle est américaine.
D'accord.
Il y a eu plein de voilà.
Et du coup pour l'intermède musical, tu nous as choisi Radiohead.
J'ai choisi du coup Radiohead qui a fait une reprise
du Commonwealth
qui est typiquement du Commonwealth alors que l'interprète original c'était Carly Simon qui était américaine.
Donc c'est une reprise du
générique de début de L'espion qui m'aimait.
D'accord, OK.
Et donc la chanson c'est Nobody Does It Better. Et Tom York avait donc dit dans une interview que cette chanson était la plus belle chanson d'amour du monde. Et donc je vais mettre de l'amour dans votre vie.
Oh, génial.
Et de l'amour et du James Bond dans votre vie. Et j'espère que vous allez tous faire l'amour sur cette chanson parce que personne ne le fait mieux que lui. Nobody does it better. Makes me feel sad for the world. Nobody does it half as good as you. Sometimes I wish someone would. Nobody does it quite the way you do. Why'd you have to be so good?
C'est parti, Florian. Le discardé, exactement.
C'est le 18 avril.
Tout, tout à fait. Voilà. C'est brutal comme
sec.
Comme Daniel Craig dans quel film encore?
Dans n'importe quel.
Dans n'importe quel film.
Bon. À sec sans gravier jusqu'à la garde. Vas-y. Voilà.
Alors 18 avril le Record Store, le discardé, donc la version, l'adaptation française du Record Store Day. À cette occasion, il y a plein de disques qui sortent à des prix complètement aberrants. Moi, en tant que disquaire, je suis totalement contre cet
cher
événement. Mais oui, trop cher. Mais bon, on y participe quand même parce que ça fait venir des gens au magasin, ça fait parler un peu de voilà du vinyle. Et donc j'ai sélectionné quelques, enfin j'ai fait la liste pour le blogueur Cinéma Club pour le site des disques qui sortaient qui nous intéressent, donc la bande originale de films, de séries. Et malgré les prix un peu abusés, il y a quand même de beaux trucs qui sortent, comme par exemple la bande originale de Orange is the New Black.
La série. Sur le blog.
Super, je trouve ça super, super chouette qu'ils aient fait ça. Donc, bah, il y aura aussi les volumes 2 et 3 de Sons of Anarchy, qui moi m'intéresse moins, mais bon, voilà, il y a un effort qui est fait au niveau de comment dire, pousser la musique de série dans ce milieu-là, vinyle. Donc, c'est assez cool. Il y a Walking Dead volume 2 aussi qui sort en picture disc.
Alors, c'est plutôt des compiles de plusieurs artistes.
Voilà,
ou
ce sont des
scores.
Alors, il y a du score, il y a de la compile. Pour Walking Dead, c'est un petit peu l'arnaque parce qu'il y a que 6 morceaux, je crois, sur le disque. Il va être vendu très cher et c'est que du remix ou.
Le générique, c'est. Cette artiste féminine là qui a été révélée dans 500 Days of Summer. Qui s'appelle Spector, Regina Spector.
Ah oui, ouais, qui fait du piano, exact.
Qui a composé un truc original pour.
Oui, c'est de la chanson.
Elle est pas mal d'ailleurs.
Elle est russe. Ah si, c'est sûr qu'elle est russe.
Elle est d'origine russe.
Elle est d'origine russe. Regina Spector est d'origine russe.
Elle vit en Angleterre ou un truc comme ça.
En tout cas, elle est d'origine russe et moi, ça fait longtemps.
Elle fait partie du Commonwealth.
Ça fait longtemps que je l'écoute. C'est ça, le Commonwealth s'agrandit.
Elle pourra nous dire James Bond.
Tout à fait.
Elle a composé une chanson originale pour la série.
Sûr et certain que Regina Spector, ça fait très très longtemps que je la suis. J'adore cette artiste. Je suis quasiment sûr qu'elle est russe.
D'accord.
Enfin, d'origine russe en tout cas.
Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait.
Ouais,
elle a composé exprès pour la série. Quoi.
D'accord. Il y aura aussi la BO du volume de la saison 2 d'Utopia qui moi.
Je regarde ça en ce moment. Très
super.
Bien.
Et tu parlais du
très
cool. Très
et la BO est vraiment géniale.
La BO est super.
Ouais.
BO
c'est Cristobal.
Cristobal Tapia de Veil.
Au petit déjeuner musical, il me semblait que tu me disais que le pressage était exceptionnel.
Ah, le pressage est exceptionnel. Ouais. Écoutez cette et musique en vinyle.
Et la série, il est tout autant. Je suis en plein dedans. Je suis seulement la première saison et je kiffe.
Super. Quatrième épisode pour ma part. C'est vrai que.
Et ensuite, on a quelques films, quelques BO de films qui sont attendus. Donc, on en parlait en off. Whiplash qui sort enfin en vinyle.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on a encore? On a la BO de Franck, super, très content.
Franck, super, c'est le frère de Didier.
Le frère de Didier. le frère capitaliste de Didier.
C'est Marine qui a fait une review, c'est ça, de Franck en parallèle avec un autre film.
C'était pas Imitation Game ou un truc.
Exact.
Et tout ça, c'est en zone 2?
Oui. Oui, tu pourras le lire en 78 tours sur ton gramophone, sans problème. Et la BO de The Darjeeling Limited aussi. Voilà.
Ah,
j'attendais absolument pas ce truc-là. D'ailleurs, j'attends toujours pas, mais.
Mais je trouve ça cool. Bah, et puis il y aura le 10 pouces de Time Warp de The Rocky Horror Picture Show. Oh. D'ailleurs, j'en profite pour passer la main à ma supérieure hiérarchique.
Voilà, dans les actualités du mois d'avril.
18 avril. Discarder, mais aussi.
Voilà, Rocky Horror Picture Show qui va être diffusé en VOST au cinéma. C'est assez exceptionnel hein, parce que c'est un film. Culte.
Oui, cultissime.
Il date des années 70.
Cultissimement culte.
Voilà, ouais. Et qui est souvent diffusé à Paris, mais en province, c'est un peu plus rare.
Mais dans quel cinéma passe-t-il, Charlotte, s'il te plaît, pourrais-tu me le dire ?
De Michel Imbert.
Au Kinépolis. Voilà. 2. Au Gaumont. 3. Au Caméo Ariel.
Les pubs pour Leclerc, là. Sur...
Donc au Caméo Ariel, rendez-vous à 22h30. Voilà, après que vous soyez passé à la face cachée dans la journée pour acheter tout vos vinyles.
Après que vous ayez écouté le DJ set de Buddy Satan qui est
et Mishapes.
C'est simple, de toute façon le chemin est simple, face cachée, Lancieux, Ariel.
Tout à fait.
Voilà. C'est sur le chemin. Alcoolisez-vous,
déguisez-vous. C'est la dernière étape.
Ça c'est quand je sors du boulot et que je suis en barésie.
Donc Rory Horror Picture Show diffusé en exclusivité à 22h30 au Caméo Ariel programmé par Blogger Cinéma Club, un très très bon site, c'est intéressant. On les aime bien. Et donc en l'occurrence, il y a c'est quoi ces suites ? Non, c'est Time Warp qui est
en 10 pouces
disponible pour le discarder.
On n'espère pas trop cher. Moins de 150 €, espérons-le.
Voilà. Tout est cohérent, vous voyez, ouais. C'est voilà.
Les planètes se sont alignées comme dans Interstellar.
Sur ces belles paroles, nous allons terminer la première partie de cette émission. Du coup, on enchaîne quand même sur le petit morceau que tu as choisi, Margot. On ne saura jamais sur...
Ouais, ce sera le mystère. On ne saura jamais pourquoi ce morceau.
C'est voilà. Pas Jersey Boys, apparemment.
Et c'est pas le fait qu'on ait fait une chronique sur Podium.
Non, ça n'a rien à voir avec Podium. Donc voilà, c'est la chanson des Four Seasons, December 1963,
wow.
Qui a été reprise par un... certain Claude François, je crois.
Une grande star.
Oh,
C'était Radio Cinéma Club. À la semaine prochaine sur ZKM.